Nous sommes 5, on s'en fout. Allez, avant de commencer l'émission, nouvelle disruption de ma part, puisque même avant le générique, même avant la moindre note, je fais ma surprise.
Waouh, Nemo, qu'est-ce que c'est novateur comme concept? Je n'ai jamais vu ça absolument ailleurs.
Merci Lua, sache que j'apprécie énormément tes interventions lorsqu'elles consistent à lire exactement ce que j'ai écrit pour toi. C'est la raison pour laquelle à partir de maintenant, comme ton pseudo est un peu dur à dire, on sera tous d'accord autour de la table, eh ben, comme si on était à la Levallois-Perret, je vais t'appeler Grinderie.
Mais non, mais c'est dégradant et immonde, tu peux pas faire ça, Nemo.
Mais tu as raison, Steve, c'est beaucoup trop long à dire. Je vais juste l'appeler Boîte de Lu.
Nemo, mais qu'est-ce que c'est rigolo comme surnom. Sache que je te considère tellement comme un modèle que si un jour j'ai des enfants, je les appellerai comme toi.
Merci, Boîte de Lu. Tu vois, Steve, plus de problème. Du coup, reprenons cette surprise et sachez que, avant de vraiment aller dans le cœur de la surprise, je dois vous lire un message du directoire exécutif régional consultatif hautement explosif des Pyrénées.
Ah, bah c'est donc ça le fameux DERCH des Pyrénées.
Tout à fait, face de cul. Allez, du coup, je vous lis le message. Suite à l'agression scandaleuse ayant touché une collaboratrice de l'émission, nous tenions à faire savoir que nous allions porter plainte pour diffamation et incitation à la haine envers tous ceux qui auraient déclaré, je cite, « Ouais, Lua, il a fait exprès d'agresser Mikou de droite parce que comme tout gauchiste, il est pour la violence et contre le débat. » Ensuite, sachez que Mikou de droite a eu droit au meilleur traitement qui soit et qu'elle sera de retour dès que possible. Voilà, c'était le message du DERCH. Mais une petite explication pour ceux qui découvriraient l'émission aujourd'hui ou en cours de route. Sachez que Mikou de droite est une peluche Hatsune Miku qui vivait jusqu'à présent chez Alderian et qui a pris vie lors d'une soirée chez lui et que nous avons intégré à l'équipe pour plus de diversité et surtout d'un commun accord.
Moi, j'étais pas au courant.
Moi, j'étais pas d'accord.
Et moi, j'ai plus de volonté propre, je fais que lire ce qu'a écrit Nemo et qui ne détient absolument pas mes figurines en otage vu qu'on enregistre l'émission chez moi.
Boîte de luche, t'adore. Mais bon, Mikou, au final, c'est un peu notre point médian à nous. C'est moche, mais au moins, c'est inclusif. En plus, elle est à la fois notre quota de femmes, d'asiatiques, et surtout, elle nous permet de dire des tas de saloperies tout en prétendant que c'est pas nous. C'est un peu comme Éric Zemmour et Pascal Praud sur CNews.
C'est sûr qu'avec des références pareilles.
Au final, c'est que du bénef pour nous. Une fois, Steve a voulu dire dans l'émission que dans le bus qu'il avait amené jusqu'à chez Lua, le chauffeur noir sentait vraiment mauvais. Il a donc utilisé Mikou de droite pour le dire. Au final, on l'a pas gardé au montage parce que c'est lui qui le fait, mais c'est vous dire à quel point on sous-estime vraiment l'utilité d'avoir une amie de droite.
Et du coup, Mikou, elle a été agressée?
Ouais, et fais pas l'innocent, Boîte de Lu. En plus, c'est en partie de ta faute. Alors qu'à un moment donné, tu te battais avec une autre personne qu'on citera pas pour pas faire de tort au podcast Bibou et Bibounette. Allez les écouter, c'est très chouette. Eh ben, vous lui avez déchiré la couette, bande de salauds. C'était un spectacle horrible à voir. On aurait cru une manifestation avec des dérapages de flics. Enfin, on aurait dit une manif, quoi.
Et elle va mieux? Il y a eu des street medics?
Alors oui et non, Boîte de Lu. Techniquement, tu maîtrises pas très bien l'anglais, mais surtout, techniquement, elle va mieux. Bah disons qu'elle a un peu changé. Enfin, le mieux, c'est que vous compreniez par vous-même, car voilà ma surprise!
Salut, camarades! Prêt pour la révolution?
C'est quoi cette merde? C'est pas ma poupée, ça?
Ah bah la poupée était prévue! Je suis une puce! Une poupée libre! Mais pas libre comme dans le libéralisme néolibéral!
Mais qu'est-ce que vous avez fait?
Alors... Alderian, sache que tu joues très très bien, mais sache surtout que l'opération de réparation a parfaitement marché. Seulement, il y a eu des petits dommages inattendus, car les aiguilles avaient reçu du sang de Philippe Poutou.
Vive le camarade Poutou! Même si, parfois, il est un peu dans la tête.
Mais j'en veux pas de cette poupée. En plus, elle est toute sale.
Se laver, c'est obéir à un système capitaliste qui privatise l'eau et toutes nos ressources.
Moi, je la trouve plutôt cool, maintenant. Et si tu veux, Alderian, je la prends chez moi.
Je refuse de vivre dans autre chose qu'un squat où on paye pas de loyer. Je vais économiser l'argent des aides sociales. Et quand ça sera fini, je partirai à Cuba pour rejoindre la lutte des camarades.
Ah ouais, je crois que je commence à voir le problème.
Ouais, elle commence à devenir chiante au bout d'un moment.
Vous refusez d'entendre la vérité. Un peu comme Mediapart. Moi, je me suis abonné à Mediapart car la moustache des Louis Plenel me rappelle celle de Joseph Staline. Et bah, quelle déception, c'est quand même sacrément de droite Mediapart.
Nemo, ça va pas être possible.
Mais non, on va s'y habituer, t'inquiète. Y a rien à faire.
Nemo, il est gros, il doit toujours aller au McDo, je suis sûr, ça se dit de gauche, mais ça va manger chez les impérialistes, ça me dégoûte.
Ok, on va vraiment faire quelque chose du coup, hein, c'est plus possible. Allez, je la balance contre le mur pour la faire taire.
Je reviendrai, camarade, et ma vengeance sera...
Ah bravo, elle va encore se casser maintenant.
Mais non, regarde, elle va bien.
Ah putain, ça fait mal.
Mauvaise voix.
Salut les gauchistes, comment ça va? Je vais en profiter des aides sociales, bah, je paye voilà. Des impôts pour vous là.
Là, c'est la bonne, c'est la vraie peluche.
Mais tout est bien qui finit bien.
on peut vous rappeler lui-même maintenant, c'est bon.
Non, il y a quand même un truc qui me chiffonne dans tout ce sketch.
Est-ce que c'est l'absence totale de jeu d'acteur convaincant dans cette surprise?
Non, ça c'est juste Alderian. En fait, c'est juste que je viens de checker et effectivement, la moustache de Staline, il y a un petit côté Edwy Plenel quand même. C'est fou, regardez.
Ça commence à être vachement long comme intro.
Ouais, c'est vrai.
On peut pas commencer?
Ouais, c'est vrai, phase de cul, on va commencer. Et si je retrouve le générique?
Les Pyrénées offrent aux randonneurs de tout poil une formidable palette de balades. Le pied sûr, le nez dans le vent, attention cependant de ne pas vous enrhumer car l'air est vif, il y a même quelques odeurs de contrebande. Bref.
Et nous voilà pour ce nouveau numéro des Pyrénées. 12 heures de mise en place, 15 heures pour préparer le mousse, je crois, à peu près.
C'est ça, à peu près. Je propose qu'on commence par applaudir Nemo à la technique pour le lancement de cette émission.
J'allais dire merci face de cul, mais j'arrête avec ce truc.
T'es vraiment un connard.
C'est vrai. À ma gauche, il y a, pour ce nouveau numéro des Pyrénées, il y a celui qui se fait très bien du coup de gauche comme de droite, c'est Lua.
Bonsoir, enfin, bonsoir.
Lua, qu'on appelle entre nous Lua. Voilà, c'est son nom. C'est son vrai nom.
C'est mon nom.
Voilà.
Officiel. Voilà. Sur ma carte d'identité.
Tout à fait. Donc, lui a un anonyme sur les réseaux sociaux. De plus, un autre anonyme sur les réseaux sociaux, c'est Steve Dutheil.
Oui, que je m'appelle pas du tout Steve Dutheil parce que je suis anonyme. Bonsoir.
Eh bien, comment ça va?
Ça va, et toi?
Qu'as-tu pensé du jeu d'acteur de lui?
Ça va?
il saturait un peu dans le micro, le jeu d'acteur, ça, je crois.
Ouais, je pense que le jeu d'acteur va me donner du travail au montage un peu.
Tu vas bien galérer.
Voilà, sachez que si vous entendez cette émission, c'est parce que Steve a réussi le montage. Steve, sache, tu écoutes à ce moment-là. Bon courage, il te reste encore beaucoup d'émissions, je pense, derrière toi. À ma droite, il y a un autre anonyme sur les réseaux sociaux, c'est Alderian.
Oui, bonsoir.
Voilà, tu as récupéré Miku, tu es content, j'espère.
Voilà, elle est comme neuve.
Voilà. Ah, c'est cool. Moi, je sais le faire aussi.
Incroyable.
Et on a un invité, figurez-vous.
C'est quand un invité qui n'est pas Miku de droite.
Qui est un invité qui n'est pas Miku de droite.
Qui n'est pas adoubé.
Hein. Qui n'est pas adoubé non plus, puisque c'est un invité.
Puis
Steve, est-ce que tu peux nous présenter notre invité de ce numéro des Pyrénées?
Eh bien, je vous présente notre invité, Oncle Fredo. Ça va, Oncle Fredo?
Salut, Oncle Fredo. Il y a un micro devant toi, c'est...
Adi Schatz Mund, soy hort content d'esta avec d'abus sur l'émission des Pyrénées.
Là, il a dit qu'il est très content d'être là.
Merci. Donc, on a Alderian qui parle couramment allemand, qui va pouvoir nous aider.
Je crois que c'était pas de l'allemand.
Mais tu parles couramment allemand, quand même.
On va voir ça plus tard.
D'accord.
<Da. rire>
Alors, avant de passer au traditionnel mot du sponsor, jingle les questions qui fâchent, etc., on va faire un petit résumé sur les sommaires. Je vous propose que chacun dise ce qu'il a amené dans sa besace. Steve, de quoi tu vas nous parler?
Rien.
Rien du tout?
Ah, juste le quiz.
Juste le quiz?
Oui.
Bah, tu vas faire un quiz quand même.
Ouais, voilà.
Lua, de quoi vas-tu nous parler?
Comme j'avais la flemme, je me suis pris pour...
Non, ça tu l'enlèves, comme tu as travaillé.
Ouais, j'ai super travaillé, et je vais vous parler de ma evening routine, à savoir...
La masturbation, comme Benjamin
Guévaux.
Oui, Guévaux.
Évidemment, le tout devant les podcasts d'humour de France Inter, donc on va faire un petit tour d'horizon de ce que j'ai l'habitude de regarder le soir.
Voilà, et la masturbation de...
Et la masturbation, mais ça je ne le ferai pas en public, parce que je suis pas très Benjamin Guévaux.
Alderian, de quoi vas-tu nous parler?
Alors, comme j'ai beaucoup travaillé et que je reviens de Berlin, je vais vous parler de ce que j'ai vu ce week-end à Berlin.
Voilà, petit descriptif de la ville de Berlin en 2020. Et toi, Oncle Fredo, tu t'es ramené avec quelque chose ou juste ta présence éradie notre podcast?
Nous allons parler de poésie. Poésie contemporaine, incroyable.
Ah, c'est...
Alors, il a dit qu'il allait parler de poésie.
La poésie est un luxe et on est bien content de l'avoir. Tandis que moi, je vais vous parler de la Tortue Rouge.
La Tortue Rouge,
qui est un superbe film d'animation.
Eh ben, encore un Blu-ray que je n'ai jamais ouvert, donc...
Bravo. Ah bah bravo. Mais tout de suite, Steve, je pense que je vais te donner du taf. Il est temps de gagner un peu notre argent pour financer le matériel de pauvre qu'on a. C'est l'heure du mot du sponsor.
Cure-dent. Et des fois, on peut pas s'en servir parce qu'on l'a fait tomber par terre et bon, bah, du coup, voilà, quoi.
On atteint quand même presque les 10 minutes de podcast. Oncle Fredo, une petite réaction déjà à ce que tu es en train de vivre.
comprenez pas tous, ben, est-ce bien, est-ce plat, c'est une grande émission de la Bilo de Rennes et tout va plat.
Tout va plat.
Okay, il dit qu'il passe un bon moment.
Merci, je crois qu'on a bien fait de les mettre l'un à côté.
Ouais, c'est bien. Et il a dit que le mousse que j'ai préparé était super bon et il l'a dit 3 fois.
D'accord, ok.
Ouais.
Orbun,
tout à fait.
Les adaptations.
Il confirme.
Ouais, c'est aussi mon personnage préféré d'ailleurs. Il est temps pour vous, messieurs qui êtes là, de répondre à mes questions puisque c'est le moment des questions qui fâchent.
Ensuite, il va y avoir les questions pièges. Ouais, ça, oui. C'est sûr, on va se faire niquer.
Niquer. Donc d'habitude dans cette émission, le présentateur pose des questions pièges à ceux qui sont là en tant que chroniqueurs ou invités. Mais comme on avait un invité de qualité, j'ai décidé d'être sympa, de vous transformer en homme politique de droite qui a des problèmes avec la justice. Et donc, on va faire une séquence questions Léa Salamé.
Votre évasion fascine absolument le monde entier. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle.
Oui.
Vous avez vraiment voyagé dans la malle?
Ah ça, vous m'en demandez.
Voilà, donc vous êtes prêts, ce sera des questions très sympathiques. Je commence par toi, Steve. Steve, un jour, tu as dit « Je n'aime pas la guerre ». D'où te vient un tel engagement ?
L'engagement pour l'amour, je crois.
Engagement pour l'amour. Alderian, ton voyage à Berlin prouve que tu es ouvert sur l'Union Européenne. Est-ce que cette intelligence d'esprit t'a toujours accompagné ?
Oui, depuis que je suis tout petit, grâce à ma maman.
Lua, tu as déjà fait toi aussi ton ouverture en allant au Japon, je crois.
Tout à fait.
Voilà, pour les enfants et pour les gens qui étudient la géographie de manière sérieuse, le Japon c'est quand même très très loin. Quand tu es revenu, est-ce que tu avais une valise ?
J'avais absolument une valise, mais je n'avais pas Carlos Ghosn dedans.
Tout à fait. Oncle Fredo, comment ça va ?
Ça va.
Comment tu fais pour rester proche du public ?
Je me fais invisible.
Invisible.
Il dirait qu'il reste humble.
Voilà, merci messieurs d'avoir su répondre à nos questions difficiles. C'était un honneur de vous avoir sur le service public.
On aurait dit Augustin Trapenard.
Pardon ?
On aurait dit plutôt Trapenard que Salamé, mais d'accord.
Mais non, mais tu vois, Salamé, elle a un petit peu la langue doucereuse, tu vois. Voilà, j'espère que vous saurez être sympa quand ce sera moi qui sera de l'autre côté. Du coup.
Toujours. Absolument.
Voilà, et ben... Maintenant, comme on est en démocratie et que vous savez que j'aime bien disrupter le sommaire, je vous propose de voter pour qui vous voulez qu'il passe en premier. Steve, pour qui veux-tu qui passe en premier ?
On a vraiment trouvé un moyen de rallonger l'émission pour rien, en fait. tu vas commencer.
C'est moi qui commence ?
Ouais.
Je pose mon droit de veto 49-3, tu n'as pas le droit.
Ok.
Alors c'est ça la démocratie.
Alors ça sera Aldé.
Aldé. Eh bien écoute, Aldé.
Je nomme une commission parlementaire pour statuer sur le sujet.
Tout à fait. Du coup, ce sera Lua. Bien joué, Lua. On commence donc par toi. Eh bien, on va commencer par les humoristes de France Inter. Il y a une musique d'intro. Est-ce que tu veux que je la mette ?
Une petite musique d'intro.
Direct.
Ouais.
France Inter, le 18-20.
Oui, je sais ce que vous vous dites. Freddy gagne du temps. Freddy n'a rien fait. Freddy s'est couché très tard.
Vrai.
Freddy a peu dormi. Alors, c'est aujourd'hui un peu particulier comme situation parce que j'avais vraiment écrit une chronique super brillante sur les gilets jaunes. C'était très intéressant. Mais je l'ai perdu. Hier, j'avais écrit sur un morceau de papier, puis je l'ai perdu hier soir, vers 3h du matin, d'une nouvelle boîte.
Voilà, tu nous as quand même infligé 50 secondes de Frédéric Bébédé voilà. Qui a pas bossé.
Je vous inflige 50 secondes de Frédéric Bébédé qui a pas bossé parce que je suis absolument dans le même état d'esprit. J'ai très peu dormi, je suis très fatigué. Et sauf que moi, j'assume de ne pas avoir beaucoup travaillé et d'avoir la flemme. Du coup, comme je le disais en intro, moi, je vais surtout vous parler de ce que je fais tous les soirs en rentrant, à savoir rattraper les podcasts humoristiques de France Inter et notamment Par Jupiter, qui est l'émission qui passe de 17h à 18h quand j'ai pas pu l'écouter, quand j'ai pu l'écouter en live dans ma voiture. Par Jupiter, pour résumer ça, grosso modo, c'est tenu par une équipe de plusieurs personnes, mais notamment deux Belges qui sont Alex Vizorek et Charline Vanhoenacker. Et le premier, Alex Vizorek, fait notamment un journal à 17h17 environ, où il revient sur des actualités très très pertinentes.
Le journal de presque 17h17.
À Sucer sur Erdre, l'association des commerçants s'ouvre à tous les acteurs de la vie économique. Voilà, c'est...
Bah, et c'est pas drôle.
C'est pas encore drôle.
Parce que, Sucer sur Erdre.
Voilà, mais vous savez pas comment s'appelle l'association des commerçants de Sucer sur Erdre.
Bah non. Hein.
L'APIPE, l'association pour les initiatives des partenariats économiques. Et donc maintenant vous connaissez la pipe de Sucer sur Erdre. Voilà. C'est un auditeur de là-bas qui m'a envoyé cette brève. Merci à lui.
Bien sûr.
Un retour sur l'actu tout en finesse, tout en pertinence et tout en beaucoup de...
Oncle Fredo, tu connaissais la pipe de Sucer sur Erdre ?
Non, pas encore. Pas vraiment, mais...
Voilà, c'est vraiment un plaisir. Maintenant, vous connaissez la pipe de Sucer sur Erdre et vous connaissez le journal de 17h17 de Alex Vizorek, qui fait également des chroniques... le matin, mais vraiment le journal de 17h17, c'est le retour sur l'actu...
Importante.
Importante, mais avec aussi des brèves rigolotes, comme l'extrait qu'on a entendu.
Dans l'extrait entendu... susnommé.
Ouais. Oui, le susnommé, exactement.
Je vais reprendre de la bière.
Dans Par Jupiter, on a également un certain Guillaume Meurice qui aime tendre son micro à la France, qui a beaucoup de choses à dire et encore une fois des choses très très pertinentes.
Ça, c'est le côté positif à mon avis qu'a donné la colonisation française en Afrique noire. On est quand même habitué à une certaine mixité.
Oui, ça c'est vraiment le bon côté de la colonisation. C'est la mixité. D'ailleurs, c'était clairement le but de départ. Hein.
Ouais, ouais.
C'était le melting pot, ils y allaient pour ça, les mecs. Bon, c'est sûr, on violait leurs femmes et puis voilà, on pillait le pays, mais il y avait la passion du partage. Ça, ils n'ont jamais voulu l'admettre. Hein. On sent qu'ils sont quand même pas mal rancuniers. Hein, bon.
Voilà, des propos.
Je pense qu'on peut dire que Guillaume Meurice, c'est le mec au meilleur self-control du monde.
Ah, c'est
c'est un des mecs qui a la meilleure répartie du monde.
Il a surtout la meilleure répartie du monde et c'est très 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 marrant parce que là il réagit dans le studio mais il réagit aussi parfois en live devant les gens et c'est toujours goldé.
C'est-à-dire que quand Guillaume Meurice n'a plus de répartie, c'est que le mec a balancé un truc tellement énorme qu'il est en mode même là je peux plus quoi.
Ça reste très rare quand même. Hein. De façon plus rare, une fois par semaine à peu près, on a Constance qui est très dans l'humour noir et la revendication un peu féministe et que j'aime beaucoup notamment par son ton un peu grinçant.
Et constant.
La vasectomie est une technique de stérilisation masculine qui consiste à couper les canaux qui transportent les spermatozoïdes à partir des testicules. Quick. Ah, ça me fait rire de dire quick sadiquement. Parce que je sais qu'à chaque fois qu'on parle de vasectomie en présence d'un homme, il est possible, si on écoute attentivement, d'entendre la peau de son petit scrotum trembler de peur. Parce que autant quand on est une femme, bouffer des hormones, se faire poser du fil à barbeler dans la boîte à soupir, se faire déchirer puis recoudre la schneck après un accouchement, on gère, on encaisse, limite on kiffe. Mais pour un homme, les coucougnettes, les roustons, les buons, les roupettes, les baloches, les valseuses, les grelots, les bourses, patouche, sujet sensible. Les saintes boules sont là pour distribuer la vie et répandre le précieux fluide de la virilité sur tout ce qui est fécondable ou pas d'ailleurs. Hein. On n'a jamais vu une grossesse de visage et pourtant...
Voilà, encore une fois, tout en finesse.
On a Aldé qui est en train de mourir.
Non mais le pire c'est que celle-là je l'ai entendue en live et j'ai dû me concentrer sur la route.
Voilà.
C'est combien de morts à cause des humoristes de France Inter.
C'est le bilan doit être. Ouais, j'aime beaucoup Constance, assez engagée mais toujours très noire, très pincante et très pertinente. De façon plus rare, on a aussi Thomas VDB qui nous parle de ses actualisiques et qui souvent fait des reprises plutôt originales.
Ça y est, elle sort la compile de la nouvelle de la chanson française qui chante pour la grande distribution. Un prochain album sur lequel on retrouve, alors il y en a beaucoup, Nolwenn Leroy Merlin, il y a Jeanne Charal qui chante. On écoute tout de suite un extrait de Aya Nakamura. Blablabla, bla, bla, je vais chez Shopee. Blablabla, bla, bla, je fais mes courses, je mets des cookies dans le sac. Voilà, on a également Marc Lavoine qui revient pour chanter un de ses tubes. Sur le parking d'Auchan, ils te prennent ton caddie, ils t'aident à descendre tes courses, ils te les mettent dans ton coffre. Et il y a même Juliette Armanet qui vient chanter. Viens chez Casino pour les potages.
Fais bien.
Ils sont en promo. Deuxième étage.
J'aime beaucoup Thomas VDB parce que tu sais jamais à quoi t'attends.
C'est incroyable, il est absolument incroyable Thomas VDB, il faut...
Je me rappelle de cette phrase fantastique de... Je sais plus si c'était Thomas VDB au début, une amoureuse de France Inter qui avait dit « Quand on me dit que l'abstention fait le jeu du FN, je dis aux électeurs du FN, mais abstenez-vous !»
C'était lui, c'était lui. C'était lui. Dans Parc Jupiter, on retrouve également un humoriste que j'aimais pas mal de l'époque de l'émission avec Laurent Ruquier, là, on demande qu'à en rire.
Ouais, on barre.
On retrouve Aymeric Lompré qui trouve petit à petit sa place dans l'émission, pareil, une fois par semaine, notamment, bon, petit extra encore une fois. Hein.
Même si c'est vrai que le chômage a baissé. Hein. Et grâce à qui? Grâce à... Manu, alors tous avec moi, viens. Merci Manu, ouais, merci Manu, merci, merci Manu, merci Manu. Il y a un mec qui allume France Inter. Putain, ça a changé France Inter. Putain, si France Inter est comme ça, j'imagine pas Europe 1. Alors, au sommaire de notre débat, les fonctionnaires, pourquoi faire? Mais avant, place à l'humour. C'est la chronique d'Alain Soral. À toi. Alain. Alors attention, le chômage a diminué, mais ça veut pas dire qu'il y a plus de personnes qui sont au boulot. Hein, ça veut juste dire qu'il y a moins de chômeurs. Non, parce que maintenant, pour être considéré comme chômeur par Pôle emploi, faut s'accrocher. Hein, faut avoir travaillé 28 ans, fait 450 heures de formation, passer 5 visites médicales, avoir 2 garants et se faire tatouer parasite sur le front.
Voilà.
Un petit coucou aux Oscars.
Un petit coucou aux Oscars, encore une fois. Donc voilà, tout ça, c'est de 17h à 18h du lundi au vendredi, et c'est un bon, bon condensé.
Le prochain extrait, il me fait très peur, parce que c'est Pierre-Emmanuel Barré pendant 1 minute 7.
Et pendant 1 minute 7, effectivement. Sur France Inter, il y a aussi Nagui et la bande originale entre 11h30 et 13h30, je crois, et notamment le segment La drôle d'humeur, qui historiquement a été tenu par Pierre-Emmanuel Barré, et effectivement, je crois que Nemo a raison d'avoir peur.
Ça date de quand ? Parce qu'il s'est fait virer, donc...
Il s'est fait virer, mais... Parce qu'il a tenu
une certaine position. Il s'est fait virer entre les deux tours, en fait, parce qu'il avait fait une chronique pro-abstention, et Nagui n'avait pas kiffé.
Exactement, mais parlons un peu de reproduction, encore une fois.
Attendez, j'ai une blague, attends. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat qui voit dans le futur ? C'est Minority Report ! C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler taux de natalité avec cette mauvaise nouvelle pour Picsou Magazine et Jean-Marc Morandini. Il y a eu 34 000 enfants en moins cette année selon l'INSEE. L'INSEE l'Institut, pas l'INSEE Lohan. 2-0 pour l'humour ! Je vous ai mis par surprise. Allez, jingle. Faire des enfants avec une femme, c'est très très bien. C'est comme se masturber, sauf que quand t'as fini et que tu t'endors, le mouchoir il se lève, il va faire la vaisselle. Alors, pourquoi les Français font-ils de moins en moins d'enfants ? Est-ce pour des raisons sociologiques ? Est-ce à cause des perturbateurs endocriniens ? Ou bien est-ce tout simplement parce que les Françaises sont moches ? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas et on s'en fout. Hein, la bonne nouvelle, c'est ces 34 000 enfants qui n'auront pas à vivre dans ce pays de merde. Hein, en effet, on l'a appris hier, Emmanuel Macron est la personnalité politique préférée des Français. Hein. Eh bien, visiblement, quand les Français arrêtent de baiser, ils arrêtent aussi de réfléchir.
Voilà, pour remettre en contexte, c'était quand même il y a 2-3 ans.
Il n'était pas président.
Et il n'était pas encore président, il avait à peine déclaré sa campagne, je crois, voire même il était juste encore ministre de l'économie. Mais ce segment a été repris par Tanguy Pastureau, qui lui aussi aime bien parler de démocratie.
Tanguy, rien ne vous échappe. La démocratie française va mal, vous savez.
Oui, notre pays va moins bien que la playlist de Chéri FM. Aïe. Là, on voit arriver 2022 avec inquiétude parce que notre démocratie est cadenassée. On va avoir moins de choix qu'un conducteur de poids lourd que Waze a envoyé au fond d'un bled de la Marne. D'un côté, on va avoir Macron qui a détruit la gauche et la droite, donc il est tout seul. Il a moins de concurrence que le kebab à Grigny. Et de l'autre, Marine Le Pen. Hein, parce qu'en fait, elle est la seule opposante à Macron. Tous les 5 ans, elle prend une pile. Hein, c'est pas une dame, c'est une télécommande. Elle se retire avant de revenir. Ça ressemble tellement au phénomène des marées que sa campagne va être couverte par Thalassa. Seulement le souci, c'est que ce choix-là, Macron-Le Pen, c'est du win-win pour les deux concernés. Il y en a un qui gagne, l'autre qui encaisse les subventions et repart pour 5 années de macramé. Mais pour pas mal de votants, c'est un cauchemar parce que personne ne croit réellement en Marine Le Pen. Elle a déjà perdu 2 fois. Elle vit dans une spirale de la loose, semblable à la nôtre où quand on fait pipi, notre téléphone tombe dans les WC. Et Macron, lui, a la même popularité que les porcs épiques chez les esthéticiennes qui font le maillot. Donc on se retrouve prisonnier d'un système pervers où à chaque fois on ne vote pas pour quelqu'un, mais contre l'autre. C'est tellement con. À Miss France, c'est mieux fait. On vote pour Miss Alsace parce qu'elle a un grain de beauté au creux de la hanche, à part les dermatologues à qui ça rappelle le boulot, qui voteront plutôt pour une peau uniforme. Mais personne ne vote Miss Alsace pour éliminer Miss Tahiti, excepté les racistes et ceux qui se sont fait une inflammation de la muqueuse suite à une allergie à leur gel douche.
Voilà, Tanguy Pastureau, c'est du non-stop. Alors, du non-stop
oui,
de la boucle.
C'est
de la
énormément
boucle,
de gags en très peu de temps, en fait.
Il enchaîne pendant 5 minutes, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.
Et
comme
il en
ça.
Fait une par jour,
et
c'est ça qui est absolument dingue.
C'est assez ouf.
Ouais, je me rappelle qu'une des blagues qu'il avait faites, qui m'avait marqué, c'est qu'il disait, je sais plus qui était, quel ministre était allé à Europe 1. À Europe 1, c'est simple, le studio est bleu, le micro est bleu, t'as l'impression de parler dans l'anus d'un schtroumpf.
J'ai
failli faire une sortie de route.
C'est que de la punchline.
En fait, c'est, voilà,
par contre, il est assez vulgaire dans son champ lexical.
Mais c'est ce qu'on aime.
Ah, visiblement, Aldé n'est pas d'accord.
J'avoue que autant j'aime pas mal l'impertinence de par Jupiter, autant Pastureau, sur certains trucs, ça peut vraiment me faire rigoler. Mais
ça marche pas
en continu,
temps,
ça marche non, pas,
tout le pas
trop.
Temps,
hein. Parfois, il y a aussi des prises de position.
Je me porte un peu en faux sur celui-là.
Bon.
Il en faut.
Il attaque un peu gratos, on va dire.
Exactement, mais parfois ça fait juste du bien. Voilà, bon, c'est tout. Hein,
Luan n'a pas bossé.
J'ai pas bossé.
Par contre, moi je voudrais juste savoir, vu que t'as cité Bec BD en avance, est-ce que tu penses vraiment que ça va permettre d'éviter de virer ? D'éviter d'être viré ?
Non.
Ah, très bien. Je vois que tu es conscient de tes actes.
C'est bien. À noter que je vous conseille, moi, c'est Chris Esquer. Mais alors, c'est plus compliqué parce que c'est un jeudi sur deux à la Méthanéale de France Inter.
Sauf que Chris Esquer, tu en as déjà parlé. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé.
Mais il est passé, il est une fois tous les 15 jours, sort dans la matinale de France
Exactement.
Inter.
Exactement. Moi, ce que je vous invite pour rattraper un peu tous ces podcasts, c'est tout simplement de vous abonner à la chaîne YouTube de France Inter. Vous payez la taxe, la redevance télé en partie pour ça. Et du coup, comme ça, c'est dans votre flux YouTube et puis vous rattrapez ça le
Justement,
soir.
Justement, vous payez une taxe. Audiovisuel, donc également
audio.
Les services publics audio.
Oui,
donc ce n'est pas une redevance télé.
Pour rappel, la redevance audiovisuelle, ça ne paye pas RBFM.
Heureusement, on manquerait plus que ça. Il y a des gens qui payent pour avoir RBFM. Rendez-vous compte. Si, ils me regardent.
Les fournisseurs d'accès internet.
Ouais, bah, c'est très bien.
Voilà.
Okay, il a pas écouté.
Ouais, je crois que Steve, on a rien à foutre, donc.
C'est pas français.
Non, c'est à ton tour, du coup.
C'est très bien, BFM. C'est pas cher.
D'ailleurs, je tiens à signaler que lors de l'échange des chroniques, tu as manqué l'occasion de jouer le Joker numéro vert. Tu aurais pu mettre en place un numéro vert pour filer ta chronique à quelqu'un d'autre.
Voilà, les blagues politiques, c'est, on aime ça, on adore. Et si on parle un peu de poésie, ça vous dit quand même? Parce que j'ai entendu le mot poésie, là, ça me donne envie. Ouais, Fredo, t'es prêt?
C'est vrai qu'après Tanguy Pastureau, la poésie, ça va nous changer.
Ah voilà, c'est ça.
Un peu de douceur.
Un peu de douceur, si j'arrive à retrouver cette introduction, je ne sais pas. Il y avait une... Ah mais oui, je sais télécharger.
Salut, c'est le montage.
Salut, c'est le montage.
Bonjour, le montage. Ça va, Steve? J'espère que tu passes une bonne soirée.
Ça va pas mal, ça va pas mal. En je vais passer une bonne soirée à monter ou pas. Là, c'est pour ça que je meuble, tu vois, ça fait un peu d'animation et je me dis que s'il y a des gens qui parlent dans le micro, ça m'évitera, moi, de faire du montage supplémentaire plus tout à l'heure.
Tu crois?
Ouais.
Allez, on est parti.
Moi, je suis pas convaincu. Hein.
Monter la garde. Dormir au bord d'un gouffre. Perdre le rythme de la respiration, tressaillir d'ennui et tenter de fuir, comme un dieu jouant saut à l'ombre du remords, du royaume de l'homogène.
Estrada gait, dormir à ras d'un bouffir, perdre le rythme de la laine, trembla des nuées et assagea des frânes, comme un dieu jouant à l'ombre des remordiments, loin de veillarme de solisque. Comme le coup sec d'un boucher, dire à l'imprudent absent, longtemps j'ai attendu, longtemps j'ai espéré. La voilà, la
Alors, oncle Fredo, de quoi vas-tu nous parler?
Et donc voilà, donc ça, c'est un livre CD qui a été sorti par la Maravilleuse Maison d'édition à Bordeaux. Qui est donc à Bordeaux, qui veut dire à bord du navire, mais c'est une maison d'édition qui s'appelle à Bordeaux, à B-O-R-D-O, et qui a sorti en juillet 2019 un livre CD qui s'appelle Sucette à travers En marge, donc dans la travers En marge, de Carles Dias, un auteur de poésie contemporaine et traduit par Jean Paille Tardif en occitan. Donc le livre est bilingue en regard, c'est-à-dire une page française et une page en occitan. Le livre est beau, il est rouge, il est magnifique.
On aime bien les livres rouges ici.
Il est rouge avec une petite étiquette blanche.
Quelle horreur, on dirait le petit livre de Mao.
Et il y a un petit CD à la fin où on le peut voir de belles personnes, n'est-ce pas? Vous l'avez pu voir, de belles personnes.
Ouais, si vous pouvez le montrer au micro, parce que
voilà, c'est très important.
Vous les voyez.
Moi, je vois une belle personne.
Ah, voilà. Hein, est-ce voilà. que tu peux décrire ce que tu vois là, parce que toi, tu es le plus près.
Alors, il y a deux hommes en costume, l'un qui a les yeux bandés, l'autre qui te met la main devant ses yeux.
Est-ce qu'il a des lunettes?
Non. Pour ne pas voir l'horreur du monde, c'est aller devant lui. Là, je brode.
Voilà, donc j'ai eu envie de mettre en musique ce texte qui est un texte, comment dire, engagé sur les langues minorées et qui sont complètement envahies par des personnes qui ne veulent que l'on parle uniquement dans une ambiance Star Trek, qu'on ne parle qu'une seule langue, de façon à pouvoir mieux diriger le bas-peuple qui, lui, ne parlera que le grumpf, le runk et le grutch.
Tu es en Bretagne, en plus la terre où on défend le breton.
Voilà, donc c'est pour cela. Donc, joue arrivé de Bordeaux, pour défendre la langue régionale. T'as vu? Bon.
Et donc,
un livre français occitan, édité par la maravilleuse maison d'édition Art Bordeaux, est-ce nécessaire?
Il dit que c'est nécessaire de défendre les langues régionales comme fait cette merveilleuse maison d'édition. Ah ben, j'ai pas la suite.
Oui, mais tout à fait, il n'y a rien d'autre à rajouter, voilà. Et donc, on peut écouter un petit extrait supplémentaire et je vais vous dire ensuite de quoi ça part.
Je vais me permettre de lancer un premier extrait. Je mets pas tout l'extrait parce qu'il fait 4,25, donc on va mettre juste un petit extrait.
Oui, il finit en tapis, en fait.
Ah, il finit en tapis.
Ah, mais c'est incroyable.
Vous êtes formidable.
Il y a des gens qui ont préparé, hein.
Faudra baisser, hein.
À ses pieds, je tourne les pages d'un album de famille avec l'avidité d'un condamné à mort à qui on vient d'apporter le dernier repas. La désolation redessine les géoglyphes de Nazca au fond de sa gorge et je me sens rempli de noix amères. Honteux de voir cette armée en déroute, rôder avec la tristesse en bandoulière. Je te serre dans mes bras, mon frère, dans cet endroit où, les yeux bandés, tu cisèles ta barque de carton. Je suis vêtu de ta souffrance pour que mon pays d'écume et ton brûlant pays de sel célèbre à l'unisson une douce lumière. Mais je te perds dans le sommeil des frontières maritimes, flottant entre deux eaux parmi les débris organiques et les épaves que charrient les marées. Pourtant, quand j'écris, la mer tout entière entre par la fenêtre. Que feras-tu de tes mains perdues ici-bas, au-delà de cette bourrasque mélancolique? Que feras-tu des mains osseuses de tes aïeux, de leurs poings saignants, condamnés au labeur, à manier l'épée et la fourche, le sang dans la bouche, à mener une monture où roule la vue hachée, tirant à soi les fatigues muettes d'une épopée irrespirable? À chaque pas, nous nous enfonçons plus profond dans les steppes vitrifiées hors les murs. Le vent joue dans les rideaux gris de cendre. C'est l'hiver, te dis-je, à l'instar d'une plaie blafarde offerte au regard.
Donc vous avez compris donc que c'est un petit peu de niaque.
Oui. Hein, ah bah oui, ça.
C'est un petit peu de niaque. Voilà. Donc je vais vous dire exactement ce qui est écrit derrière. C'est donc la Talvera. Talvera pour les franches au nord d'un pays qui s'appelle la France. Joue d'Omori au nord de la Gascogne. Bordeaux est au nord de la Gascogne et non pas au sud-ouest de je sais pas quoi. Le sud-ouest. La Bretagne c'est
en gros les points cardinaux, ça dépend d'où on se place.
C'est ça. Voilà. Donc voilà. Le massif central pour nous il est pas central, c'est le massif septentrional
du nord.
Tu sais que à Brest, quand tu vas au sud, tu vas à Quimper.
Eh bien, c'est possible. Nous, le nord, c'est les Charentes déjà.
Ah. Et la Bretagne, c'est quoi?
Ouf, pour, c'est la toundra.
C'est l'Amérique. Hein,
c'est les terres australes.
C'est les terres australes, quoi. Il y a des pingouins et tout, quoi.
Ah, on a parlé du mystère des pingouins, mais genre.
Les pingouins.
C'est le Goulag, au secours. Donc, il y a des mêmes étrangers partout.
La Talvera est donc un mot occitan qui désigne la bordure non labourée d'un champ. D'accord. L'endroit où la charrue doit tourner. Ce qui veut dire que, par métaphore, sur la Talvera se traduit en français par « en marge », qui en marge
en
et non
marge.
Pas,
oui, pas en marche.
En marche non, oui. Surtout pas en marge qui donc dans ce long poème, parce qu'il s'agit d'un long poème qui a été dit et mis en musique. Au départ, l'auteur n'avait pas prévu de le mettre en musique. C'est moi qui suis le responsable. Je suis désolé. Mais
tu l'as un peu forcé, je crois. Hein. Tu l'as un peu forcé, je crois.
Qui?
Carles à mettre en musique.
Je l'ai forcé.
Ouais.
Non, je lui ai dit je vais le faire, c'est tout.
Donc il m'a fait d'accord. Est-ce que le pistolet que tu avais à ce moment-là avait un rapport?
Non, mais parce que c'était un faux, il a pas vu, c'est un poème.
Ah, d'accord,
parce
que t'as menacé de détruire ses figurines comme le fait.
Non.
Je crois que cette dernière question est hors sujet.
Ouais, bon, voilà. Et donc tout ce long poème qui doit s'entendre comme un souffle de dignité, de dignité. On l'a entendu là tout à l'heure, hein, comme un frisson d'espoir, je lis, une invocation à ceux qui se sont dressés, un chant à la gloire des vaincus, Gloria Victis. Gloria Victis étant une très belle statue où l'on voit un ange qui emporte le soldat mort, qui a perdu la guerre et qui est emporté quand même avec honneur vers
son paradis
de ceux qui ont perdu. Mais bon, donc il y a en marge en revanche.
Oui. Moi, j'avais une vraie question en parlant des vaincus, justement, des vaincus. Moi, une de mes grandes visites, une visite de ma vie, ça a été le cimetière allemand en Normandie, où il y avait les soldats allemands, en fait, qui sont morts pendant la guerre. Et c'est un lieu, autant le cimetière américain, c'est prenant, c'est vraiment, c'est des beaux bâtiments. Le cimetière allemand est d'une sobriété absolument dingue. Et surtout, il y a un truc qu'il n'y a pas au cimetière américain. Il y a l'âge des soldats. Et voir juste un homme est mort, il avait 18 ans, et c'est tout. Et on sait même pas qui c'était, etc.
Pour souvenir, pour avoir visité aussi du côté du chemin des dames les quelques cimetières allemands, on voit que certains soldats étaient juifs.
Oui.
Avec la croix, pas la croix, oui, c'est ça.
Enfin,
l'étoile juive.
Bah, c'est voilà. Ouais.
L'étoile de David.
L'étoile de David.
Et en tout cas, si vous avez l'occasion de passer dans un cimetière.
On parle de la guerre de 14, bien sûr.
Oui. Moi, c'était la guerre de 39-45. Mais si vous avez l'occasion de passer dans un cimetière, que ce soit allemand, américain, etc., c'est un moment qu'il faut pas louper, quoi.
Donc, on fait un bon tip TripAdvisor, là.
Voilà.
Et donc, je continue. Et donc, pourquoi il a rajouté le poète Carles Diaz, donc, en marge, pour dire que ici, que ce en marge n'est pas décrit au sens du barrage, de la séparation, de la frontière, mais comme une zone complémentaire d'attente et d'expectative. C'est dur, ça.
Expectative.
Expectative. Comme un lieu d'observation commun, car proposant une vision sensible de l'histoire, un territoire de résistance qui renforce le courage face à la réalité, le lieu en définitive où paraît à l'infini se nouer et se conjuguer les différentes fièvres, tensions, singularités, manières d'être au monde.
Et là, je souhaite du courage aux auditeurs parce que c'est plus facile quand on a le texte sous les yeux pour comprendre ce que les implications et les subtilités qui sous-tendent le texte que lorsqu'on l'entend.
Moi, on m'a toujours appris que ne pas comprendre un texte n'était pas forcément un problème à partir du moment où il y avait un moment où ça te touche, où ça te... Ouais. La poésie, c'est au-delà de l'addition des mots, en fait. C'est
surtout
vraiment...
en poésie où il ne faut pas chercher à comprendre le sens, il faut chercher à en trouver le bonheur que cela peut te procurer.
J'ai jamais compris le poème Le cimetière marin, mais je l'adore.
Il y en a beaucoup que je n'ai pas compris.
Oui.
Même celui-là, parfois, je ne comprends pas tout.
On ne peut pas tous se comprendre.
Donc voilà, donc magnifique travail. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Un petit extrait,
un deuxième extrait?
Ouais.
C'est facile de dire magnifique travail quand c'est soi qui l'avons mis en musique.
Mais je ne vais pas dire qu'il est dégueulasse. Hein.
Tu vas t'en prendre d'une. Tu peux le frapper. Hein.
Mais non, ça ne se fait pas. Moi, non violent. Hein.
Merci.
Gloire au vaincu.
Moi, occitan, non violent.
Oui, j'ai pas envie d'être vaincu, en fait.
Voilà.
Je le sens mal.
Ça nous rappelle toujours l'histoire que racontait, vous avez pas connu ça. Moi, j'ai connu, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, qui ont fait un sketch dans les années 60 sur les sudistes et les nordistes, mais ils parlaient des... De la guerre de sécession.
Ah, de la guerre, oui, aux États-Unis, oui.
Et donc, tu les voyais habillés un soldat du Sud, l'autre un soldat du Nord, et celui du Sud disait, nous avons perdu la guerre parce que nous étions moins nombreux.
Oui.
Et c'est tout. C'est-à-dire, et pour les Occitans, ils ont perdu la guerre parce qu'ils étaient moins nombreux face à ces barbares venus du nord, avec ils s'appelaient des Francs.
En parlant de moins nombreux, j'ai un sketch que j'adore qui est un, je sais plus qui, je retrouverai le nom pour l'affiche, on va dire.
C'est pas parce qu'ils étaient moins nombreux.
C'est un, tu vois, c'est, ça se passe en Inde, où c'est les Anglais qui arrivent pour conquérir l'Inde, et t'as un petit paysan qui est en train de simplement de s'occuper de sa ferme, etc., en Inde, et t'as un soldat anglais qui arrive avec toute sa troupe derrière lui et tout, et il lui dit, maintenant, cette terre appartient à la reine. Et il dit, mais pourquoi elle appartient à la reine? Parce que la reine a été nommée par Dieu! Et l'Indien lui répond, mais lequel?
Lequel, c'est ça.
Et incompréhension totale, évidemment, de l'anglais. On va mettre le deuxième extrait.
Allez.
C'est parti. Et là, ça a la pêche aussi?
Je sais pas. Mais ça parle de la terre.
La vie, c'est d'être transplanté sous le ciel des tropiques. C'est le brouillard en naufrage à la lisière de la forêt. La même perspicace du jardinier, attentive à la charité du temps. Ce sont les flots confondus de l'Adriatique, de la mer Caspienne et les chutes d'eau de l'Amazone. La conscience d'exister sur le champ, hic et nuc, les statues équestres entourées de myrtes sauvages, le crépuscule en surplomb du confluent, les mots d'amitié sur carte postale, et le sifflet des locomotives, tout comme l'offensive des guêpes, et l'affront contre la tutelle de l'argent et de l'affairement de l'étiquetage.
Cares hombres, Akime, ambora fronda la man. Tinsu miatsu miars rivers. De mia guerra senti l'engrasamento dell'existenzia. La gratuità tu soberano, ter suns.
Le plus souvent, je suis seul et je demande au Très-Haut, où sont tes anges? Où sont partis les combattants? Cherchent-ils la carte que l'on s'est déjà perdue?
Je me cogne la vue sur les lumineux panneaux des autoroutes. Et mon chant, exutoire, au perché entre le provisoire et l'inaccessible, s'achève sur une note ascendante. Une phrase absurde, parasitaire, me hante, m'obsède comme la pauvreté première. Aux grands blessés, aux mutilés, à tous ceux qui errent vaincus sans espérance de retour, aux bras coupés, aux vies tronquées, je demande, quel est le nom de votre peuple?
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 Quel est le nom de votre peuple? Qu'est-ce qui fait peuple? Est-ce monsieur?
Je sais pas.
Monsieur, est-ce que tu fais peuple?
Est-ce que je fais nation? Est-ce que je fais peuple?
C'est, tu fais nation.
Oh là là, là on est revenu sur France Inter.
Voilà, c'est bizarrement, c'est exactement ce que j'allais dire, mais ouais. J'ai pas voulu donner un nouveau coup de patte à ta chronique.
Non, voilà, j'ai, donc on a voulu mettre en musique cette création originale pour comme une performance orale et musicale électronique qui pour enregistrer la poésie de Carles Diaz pour qu'elle fasse écho à son temps. Tout simplement. Donc on peut trouver ce très beau livre dans toute bonne librairie ou sur commande. Donc à bordeaux.fr, à BORDO, ou le commander dans une bonne librairie. Il y en a ici?
Oui, oui, oui.
Non, vous avez vu. On est fourni.
Oui, il y en a. Bon, ouais, vous lisez encore.
Ah oui,
oui, oui, oh, d'accord.
Des mangas, mais on lit.
Non, des mangas. Non, très bien. Ouais. Non, je les ai vus, des très belles librairies. Comment elles s'appellent déjà?
Il y a le Fayet, notamment.
Il y a le Fayet et La Nuit des Temps.
La nuit des temps, je crois.
Ouais, il y a des temps. Mais ouais, pas mal servi en librairie.
Donc là, donc il suffit de leur demander. Donc c'est ça, t'avais En marge de Carles Diaz, et ça vaut 20€ avec CD ou 14€ sans CD. On peut le trouver aussi en podcast. Pour 5€, vous avez toute la musique pour 5€ en podcast. Vous cherchez sur le site internet à bordeaux.fr.
téléchargement MP3.
Ah ouais,
il y a de quoi faire.
Un truc à rajouter?
Bah c'est à toi qu'on pose la question, est-ce que tu as un dernier mot?
Bah le dernier mot, nun sabi pas rop, ludarei moi mot, mais que suis encore hort content d'estar present aqui.
Allez.
Désolé, j'ai pas.
Désolé, tu n'as pas, voilà.
Et donc, Adichat, c'est Arkop Kébé.
Tout à fait. Voilà, ou comme disait ma grand-mère bretonne, Inch'Allah. Oui, il y a eu des affaires un peu bizarres. Enfin,
Qui vivra verra.
Ce que je vous propose, c'est qu'après toutes ces émotions, on va aller se détendre un petit peu avec un quiz. Ça te va, mon cher Steve?
Ça me va.
Une surprise?
Après.
Après.
On y va.
Allez, c'est parti, un petit quiz.
En avril 2010, comment appelle-t-on les membres de l'église chrétienne, père du mouvement punk, présentant des taches rappelant la peau de la vipère, composée d'un mélange de légumes cuits, préparant l'émancipation politique des pays d'Afrique noire? Oui, Roger.
Un vélo?
Non.
C'est toujours pas un vélo, Roger. Il essaye à chaque émission, mais on dirait pas. C'est le meilleur jingle de l'émission.
Merci. Et c'est tiré d'un...
D'un YouTube poop, j'imagine.
C'est tiré d'une page SoundCloud. Oui, c'est quelqu'un qui a fait des remixes de champion. Question pour un champion et qui sont. Mais il a rendu juste un extrait en fait.
D'accord.
J'ai mis le jingle. C'est juste une musique derrière, mais c'est un extrait. Et donc il y a un montage, mais c'est il y a un humour de l'absurde qui est absolument magnifique. Quoi. Faut chercher sur SoundCloud le truc Julien Lepers ou Question pour un champion.
C'est vraiment l'émission où on meuble en fait. Hein.
Non, mais c'est intéressant. On est une émission un peu anarchiste quand même, il faut quand même le dire.
Et donc bref, le
quiz. Je rappelle que l'adresse c'est Limoges pour le podcast. Pour quiz.
Le quiz, c'est juste que alors un petit truc rigolo. À un moment donné, le vous savez que j'écoute de la musique, j'aime bien aller fouiner les petits groupes indés qui on sait pas d'où ils sortent, etc.
Je sens que ça va être genre est-ce que c'est un groupe de nom indé ou un nom de groupe nazi, tu vois?
Eh ben c'est presque ça.
Ah merde.
Oh merde.
Est-ce que c'est un nom de groupe de rock alternatif ou est-ce que c'est un prénom breton?
C'est quoi les équipes? C'est comment ça se passe? Non,
je pense que ça va être à tour de rôle.
D'accord. Ok, très bien.
Y a quoi à gagner?
À gagner, ça sera ma surprise.
Oh! Et ben on enchaînera avec ta surprise.
On enchaînera avec ma surprise. Alors, très bien, on va commencer. Bon, je pense qu'on va faire vraiment.
Alors, qu'est-ce que je vais dire?
Non, c'est que.
Non,
c'est que, voilà. Ça va être chacun son tour et au niveau de l'ordre, ça devrait le faire, ça va être bien. Donc, là, tu vas commencer. Tanagra.
Prénom breton.
C'est un groupe de rock progressif. Hein. Nemo.
Oui.
Awenig.
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 Awenig. Je vais dire prénom breton.
Prénom breton. Un point pour Nemo. J'ai pas le droit de donner les points.
J'en ai couché avec une fois. Non, je
t'ai cru. Ok, la vie privée dans les micros, quoi.
Awenig ta mère. Allez.
Oh là là.
Alors, Alderian, Eon.
C'est un groupe?
Non, c'est un prénom breton.
Ah, dommage.
C'est près du vent, tu vois, c'est les...
Oncle Fredo, Mogwai.
Ah, quand même. Mogwai, c'est un groupe. C'est un groupe de musique de 1993 qui a enregistré des choses très intéressantes, qui ont eu, je crois, un prix à Charles Cros en 1998.
C'est trop long.
Leur batteur est né un jeu.
Dirait-nous qu'on parle de trucs de weed.
Leur batteur est né un jeu.
Allez, on refait le tour. Lua Ishkaro. Ishkero.
C'est un verbe allemand. Ishkero.
Ishkero.
Groupe.
Groupe, tout à fait. Un point. Nemo Kana.
Kana, c'est un prénom japonais. Donc, c'est un groupe breton.
Et c'est un prénom breton.
C'est un prénom japonais. Je suis désolé.
Ça devrait être facile, je pense. Aldé Pelican.
C'est un groupe.
Ouais, c'est un groupe.
Quand même.
On a tous un point là pour l'instant.
Tous un point, attention.
Alors peut-être deux points.
Oncle Fredo, Shellac.
Shellac. C'est un prénom.
C'est un groupe.
On a tous un point.
Ouais.
Lua Predena.
Dans la vallée, près de là.
Allez, prénom breton.
Prénom breton, tout à fait. Oh,
putain, wow.
Je mène.
Nemo Torch.
Groupe.
Groupe, tout à fait.
Bam.
Nous sommes à égalité.
Lua.
Non.
Mais non.
Si.
Pourquoi ils tombent?
Parce que clairement, je décide.
Ok.
Clairement, laisse l'arbitre décider de changer les règles en cours de route.
Les règles Lua. Changent.
Wire.
Groupe.
Oui, groupe. Je pense que Aldé aurait trouvé tout de suite.
Oh, mais en même Wire. Temps...
Hein?
Wire. Je pense que t'aurais trouvé, toi.
Mais c'est juste que c'est pas du tout un prénom, en fait. Donc par élimination, j'aurais dit groupe, tu vois.
Écoute, j'ai un peu hésité. Hein?
Du coup,
j'ai perdu
points.
J'ai perdu ma chronique, d'accord.
Allez, on revient à toi, Aldé.
On est bien d'accord que Wire, ça compte pas, du coup.
Conwayon.
Quoi?
Conwayon.
Ça me paraît vachement long pour un prénom quand même.
Dans la jungle, terrible jungle.
Ah, je vais dire groupe, mais je sens la connerie.
Ouais, c'est un prénom.
Ouais,
Oncle Fredo, Gorgone.
Gorgone, c'est un groupe qui a en 2000.
Ah non, c'est plus ancien que ça. Gorgone,
un, c'est trop long, et deux, c'est faux, c'est un prénom.
Ah, merde. Donc, tous les deux sont éliminés. Hein.
Ah, je suis sûr que c'est... ouais, mais c'est forcément un groupe aussi.
J'ai deux points, il en a deux aussi.
Non, j'en ai trois parce que j'ai répondu voyeur, mais c'est à toi de répondre.
Comment Gorgone?
Ouais. Ah, ouais, c'est un prénom.
Et c'est forcément un groupe aussi. Hein.
Allez, c'est pas allez. Aussi une bête maléfique
Arrête de toucher ton micro, voyons.
Nemo, Clairvy.
Pardon?
Clairvy.
Prénom?
Prénom, oui, tout à fait.
Égalité, là, c'est entre nous deux, quoi.
Entre nous deux, là. Hein.
Allez, on revient à l'UA, ça fait le nouvel ordre, hein, comme ça.
Ouais, mais du coup, je me suis fait vraiment niquer un tour, quoi.
Mais non, parce que t'as perdu.
Non, t'as perdu.
Je peux pas rattraper.
Je peux plus rattraper le score, c'est fini. Tu as perdu. Tu es nul, Alderion.
Ça sera la dernière question.
C'est vraiment un truc libéral.
Attends, fais fort. 1, 2, 3, 4.
Ah d'accord, donc en fait, moi je dois répondre à une question, et si je me plante, c'est Nemo qui gagne. D'accord, ok.
Ça peut être pas mal.
C'est, franchement, les règles changent tout le temps.
Non, j'ai des bonus. J'ai des bonus, si vous voulez, on pourra faire... Ou alors, on fait un truc, on vous départage tous les deux.
Oui, c'est ça, c'est lui.
Oui, c'est ça. C'est...
Donc, ce qu'on va faire, on va faire...
Ouais, parce qu'ils ont décidé qu'on jouait plus, en fait.
Non, mais vous avez moins de points, en fait.
Vous êtes à égalité tous les deux au niveau des points.
Oui, c'est certain. Égalité, c'est parti.
Eh bien, c'est parti, il m'en reste 5.
Je suis absolument certain que c'est un groupe de musique. Je suis sûr, je tape sur internet, je trouve 10 groupes qui portent ce nom.
Drogone, certain.
C'est à qui déjà? Je suis perdu.
C'est à moi.
C'est à toi.
C'est à lui, à Drogone.
Prénom.
Prénom. Nemo.
Pardon.
Madden.
Prénom.
Prénom. Attention. Guyonne.
Groupe.
C'est une province française.
C'est accepté, c'était les deux.
Et oh ouais. Non, mais non! Tu dois dire les deux dans ce cas-là! Une autre, parce que ça compte pas, celle-là.
On va s'arrêter. Ah merde. Ewen. Oh.
Prénom.
Prénom. Grégor.
Groupe.
Groupe.
Une somme d'égalité, comment tu fais?
T'es
mal là, hein. T'es mal. T'as la pression. T'as la pression.
Je tiens à signaler qu'il y a au moins 6 groupes qui s'appellent Gorgone.
Oui. Bah c'est Oncle Fredo qui a gagné.
Ouais.
Comment on peut vous départager?
Bah non, c'est Oncle Fredo qui a gagné.
Un groupe d'expérimental rock formé en 2005.
Si il se saisit d'une question d'Apéricube.
Allez, vas-y. Une question. Allez,
on va prendre une question Apéricube et puis Apéricube. On va vous départager avec.
Attendez,
ça.
Il faut citer d'autres marques. Tartare, Boursin, Juan Branco.
Attention,
tu peux y aller.
Vous êtes prêts? Qui a composé la bande originale du film Astérix et Obélix contre César?
Et c'est dur en plus.
J'en sais rien.
Depuis tout à l'heure, on a des questions complètement nazes et là on tombe sur une
alors,
question super dure.
Excuse-moi, je vais vérifier Astérix.
C'est la triche. Nemo, il a son PC.
Nemo dispose d'un ordinateur de type PC.
C'est la triche. Monsieur le juge.
C'est pas moi le juge.
Est-ce que c'est Jean-Jacques Goldman ou est-ce que c'est Vladimir Costa?
Vladimir Costa!
C'est Jean-Jacques Goldman.
C'est bien bon, là, t'as gagné!
Ouais! Je suis trop bon!
Alors, bon, en plus, ça va te plaire, la surprise, je vais te la chercher.
Oh là là. Alors, qu'est-ce que ça va être?
Attention,
du coup, Oncle Fredo, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de ta vie pendant qu'il va chercher?
Je vais faire la musique, il va en chercher. Pom, pim, pom, 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 pim.
Est-ce que tu veux faire tous les jingles de l'émission?
Lua, tu gagnes la surprise de Steve.
Waouh, le jingle surprise.
Jingle surprise de Steve.
Un paquet recouvert de papier craft.
Où il y a marqué la surprise de Steve.
Écrit la surprise de Steve.
Il y a écrit surprise.
Il y a écrit surprise de façon superbement calligraphiée.
C'est ça, c'est
la surprise de Steve.
Est-ce qu'il y a la tribu génitale de Benjamin Griveaux dedans?
C'est un cadre.
Surprise et la cerise.
Je tiens à signaler que c'est un cadre. Attention. Donc ça peut être encore les attributs génitaux.
Ça se trouve, c'est une en photo. Ça se trouve, c'est la photo de Steve que tu vas devoir mettre chez toi.
Sur les attributs génitaux de. Bah, de...
Oh putain! Oh non! Non!
Pas un appareil génital.
Non! Non!
Alors il s'agit d'un attribut génital de type français.
Alors, faut expliquer ce qui se passe. Alors, c'est très compliqué. En fait, il se trouve que. On va expliquer.
Le présent chroniqueur était dans un centre commercial de type.
Lidl.
Discount.
Non, Lidl.
Non, c'était la pizzeria que la photo était prise.
Oui, la pizzeria était. Enfin, ça a été pris à Pizza Hut. Donc, faut citer d'autres parcs de pizza.
Domino's. Au délice,
voilà. Allez, hop, c'est parti. Et donc, on venait de passer au Lidl, donc faut citer d'autres marques, genre de trucs discount.
Leader Price et Aldi.
Leader Price, la campagne d'Annie Espuzin. Enfin bref, que des trucs discount. Et du coup, lui a été en admiration devant une baguette de pain qu'il a décidé de câliner discrètement, pour dire ça comme ça.
Je suis très câlin. Hein.
Et du coup, j'ai fait cette photo avec mon téléphone portable de type Xiaomi.
Donc, montre le cadre
iPad, voilà. Etc. Et cette photo est absolument magnifique.
Elle est super, cette photo.
Voilà. Je pense que on avait jamais rien encadré à part la bite de Benjamin Griveaux de ce niveau.
Au secours.
Alors, du coup, normalement, il y a un petit truc dans le papier qui te permet de la, il y a un petit truc en métal.
C'est l'édition collector.
Voilà, donc, du coup, tu veux que je l'accroche.
Donc. Alors, tu peux l'accrocher, ou alors, regarde-toi, tu peux mettre ça derrière.
Comme ça, je peux vraiment m'admirer voilà. Sur
Alors, tu pourras la mettre au bureau.
Oh putain. Tu sais que c'est pas une si mauvaise idée.
Non, c'est voilà. Alors rassurez-vous, on ne la mettra pas sur les réseaux sociaux parce que lui ne veut pas qu'on la mette sur les réseaux sociaux. Donc on ne la mettra pas. On mettra juste la photo, mais avec une tête de singe à la place. Non, mais c'est indescriptible. Peut-être qu'on la floutera, je sais pas.
Non, tu mets un emoji devant. Et puis
voilà, on mettra un emoji devant.
On masquera la baguette.
Vendu.
Merci Steve pour cette surprise qui dépasse quand même ton quiz en qualité, il faut quand même le dire.
Oh là là.
Beaucoup de préparation dans tout ça quand même. Hein.
Oh putain, oui, il était beaucoup plus préparé que moi en fait. Ouais.
Oh ça, j'ai fait il y a peut-être une semaine ou deux, et c'est dans mon placard en attendant le.
Et est-ce qu'à chaque
moment.
Fois que tu l'as regardé, tu t'es dit putain quel con. Quel petit malin quand même.
Non, elle était rangée.
Je dis juste qu'il y en a qui, pour leur surprise, ont accès à des moyens matériels concrets, beaucoup plus avancés que d'autres. Donc, ça crée un déséquilibre entre les chroniqueurs.
Tout à fait. Et bien, c'est la raison pour laquelle on va passer à ta surprise, du coup.
Alors, ma surprise, elle est.
On va faire l'enchaînement des surprises. Allez, c'est parti.
Le jingle.
Ah, jingle. Un jingle surprise.
Oui. Un jingle.
Le même, du coup. Allez, hop, t'as gagné.
Surprise, motherfucker.
Ma surprise est absolument improvisée.
Ah, c'est comme la chronique de Mec BT.
C'est-à-dire que bon, je l'ai, hein, mais j'en ai décidé en peu près 5 minutes avant qu'on lance le podcast.
Moi, j'ai décidé en 2 minutes avant qu'on le lance.
Ah, bah bravo, tu me bornes l'improvisation. C'est-à-dire que comme je savais absolument pas quoi, et je tiens à exprimer publiquement mon désaccord avec ce concept de surprise dans les podcasts. ce concept me casse les attributs génitaux de pas Benjamin Griveaux.
On est à 5 Benjamin Griveaux. Alors c'est quoi ton truc?
Donc c'est-à-dire que je vais vous donner une adresse. Une adresse très sympathique.
Oula.
Pour passer vos soirées, vos après-midi à Berlin. Qui n'est pas une boîte de nuit, donc vous n'allez,
oui,
vous n'allez pas vous retrouver recalé par un videur au bout d'une heure et demie d'attente en pleine nuit.
Ou finir comme Castaner.
Voilà. Donc moi je l'ai pas fait, je suis resté dormir, mais mes potes l'ont fait et sont rentrés à 4h du matin en ayant été refusé de boîte.
Du coup, peux-tu nous donner cette adresse?
Et donc cette adresse, elle est dans Berlin Est, dans le très beau quartier de Kreuzberg. Alors c'est un quartier très moche, c'est le quartier de Berlin Est.
Je trouve qu'il étire vachement quand même.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Non mais c'est pour faire croire qu'il y a quelque chose, alors qu'en vrai j'ai juste une adresse.
En fait, là il y a une maison que j'ai trouvé très jolie.
Non mais c'est un vrai club. C'est un peu.
Je suis devenu proprio.
C'est un squat. Enfin, c'est un squat très organisé, mais c'est un squat.
Est-ce que c'est une ZAD?
On n'est pas loin. C'est-à-dire que c'est...
Notre-Dame-des-Landstrasse.
C'est le coin des Jamaïcains.
Cette surprise est beaucoup trop longue.
Et donc, en gros, vous pouvez vous rentrer. Il y a une donation. Vous donnez 1 euro, 2 euros, on s'en fout. Et vous rentrez dans la zone. Non, il prend pas la Deutsche Mark. Et en gros, il y a des amas de bois qui forment à peu près des boutiques qui permettent d'acheter des bières de type bière, et ainsi que différentes choses culinaires de type nourriture. Et notamment, vous avez beaucoup de tags. Il y a des zones spéciales pour permettre aux gens de taguer eux-mêmes. Il y a vraiment des pseudo murs de Berlin disponibles pour taguer.
Et
il y a
des cracher ton adresse.
Voilà. Et en vrai, il y a des trucs super créatifs, c'est super impressionnant.
C'est beaucoup de super.
Ouais. Et pour l'anecdote, si vous regardez de très près si vous regardez de manière insistante les gens devant qui vous passez, vous pouvez être sûr que dans les 5 minutes, on vous demande si vous voulez de la drogue.
Ça sent le vécu.
Ça sent le vécu, ouais.
Et je ne dirai pas au micro si on en a acheté ou pas.
Ça veut dire que non, bien sûr.
Et donc l'adresse c'est le YAM Y2AM dans le taille, du coup il y a des, enfin je sais plus quoi. Et donc c'est Ander Schillingbrücke 3 10243 Berlin, Allemagne.
Alors je tiens à dire que j'ai tapé le coin des Jamaïcains Berlin dans Google, c'est la première adresse qui pop. Donc si vous
Ah oui.
Et tout ça pour ça, putain.
Et en vrai, nous on l'a fait dans l'après-midi, mais le soir, il y a régulièrement des soirées hip-hop. Et mes potes, ils sont retournés de nuit. Moi, je suis resté dormir. Et apparemment, c'était cool.
D'accord. Et ben merci. On va revenir à Berlin tout de suite pour ta chronique. Mais d'abord, c'est on enchaîne les surprises dans cette émission.
En gros, on n'avait rien préparé en planning. On en met tous les surprises au même moment.
Mais oui,
quoi.
Mais oui, mais il faut disrupter le planning. C'est l'heure de la surprise de l'UA.
Surprise, motherfucker. Et j'appelle JB.
Ok. Hey,
c'est ultra cheap comme surprise. Hein.
Bonjour JB.
On parle de moi.
Alors, il sort un sabre Japan Expo.
Lors de la dernière émission, nous avons adoubé Alderian.
Oh non.
Avez-vous remarqué que l'épisode s'appelle l'adoubement deuxième partie?
Il se trouve que nous avons un nouveau René.
Ah oui, c'est vrai. Enfin, pas tout à fait. Il habite à 20 minutes de Rennes, mais ça compte parce qu'il y a des bus.
Mais ça compte parce qu'il y a des bus.
J'ai pas le gaz en plus.
Et tu n'as toujours pas l'électricité, tu n'as pas l'eau, tu n'as pas le gaz.
Un vrai provincial, quoi.
J'ai donc l'extrême honneur
de sortir
mon Shusode no Shirayuki et d'adoubler.
Ça veut dire sabre Japan Expo. En fait.
Okay. JB. Pyrénées numéro 5. Voilà, j'ai improvisé ça en 2 minutes. Voilà.
Que dire sinon que c'était un rêve à réaliser. Avec des chroniqueurs de...
Oui, il ne va pas au bout de cette blague. Cette fois. Je sais que la chronique de l'UA était décevante, mais quand même, un peu de respect.
Please understand.
Ok, alors... Merci JB. On te retrouvera peut-être dans un prochain numéro. De toute façon, personne ne sait ce qui se passe dans cette émission, même pas nous qui la faisons, et vous qui l'écoutez, je n'ose pas imaginer. Rappelons que nous nous retrouvons à limoges.lepodcast.fr. Il nous reste 2 chroniques. Il reste celle d'Alderian, il reste la mienne. Laquelle préférez-vous, oncle Fredo?
La tienne.
Ce sera donc celle d'Alderian qui va commencer.
Parce que quand on demande le choix, on s'en fiche du résultat, on donne la réponse.
Non, c'est pas vrai. C'est parti, bon, on va rester à Berlin du coup. Hein. On reste à Berlin-Est ou c'est de manière...
Ouais, on va rester à Berlin-Est.
Est-ce que tu veux ta petite musique maintenant ou on attend
un petit
peu?
S'il te plaît.
Disons que c'est Sting's Russians. Ah.
A growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. It would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too.
Voilà, donc le refrain de Russians, de Sting, qui faisait une chanson à l'époque sur la guerre froide, où il cite un peu plus loin donc Khrushchev et Reagan. Et donc pour tout ça, pour parler de Berlin-Est, parce que j'étais donc à Berlin ce week-end, et comme je savais pas trop de quoi parler, je me suis dit on va parler de ça.
C'est honnête, voilà. On respecte.
Voilà, ouais, c'est clair.
Non mais c'est bien, on est tous honnêtes autour de ce micro, c'est fantastique.
J'ai l'impression que c'est un peu le mood, à part, je crois que la chronique la plus travaillée, ça va peut-être...
Ah non, absolument pas.
Absolument pas.
Non. Le sketch au début,
ouais.
Quand il s'agit de dire des bêtises, là c'est préparé, mais pour parler de choses sérieuses, ça va être dans le mood du moment.
Ce que je tiens à signaler, qu'on est mardi, je suis rentré hier soir chez moi à 17h, après m'être levé à chaque fois 4h du mat pour prendre l'avion, donc je suis...
Envoyez un hashtag Alderian si jamais vous soutenez cette cause.
Voilà, et non mais en fait j'avais déjà eu l'occasion d'aller à Berlin il y a quelques années pour une semaine, et puis il se trouve que, bah,
comme on découvre la ville, on a fait surtout un peu Berlin centre, Berlin ouest, les quelques musées. Et là, avec avec quelques potes, on s'est fait un week-end. Ça a été l'occasion d'aller beaucoup plus dans le Berlin est. Et notamment, on s'est fait quelques musées et ça a été une bonne surprise. Bon, pas très rigolote, hein. On va, c'est
Berlin.
C'est pas le hashtag bonne humeur. Hein.
N'oubliez pas le hashtag bonne humeur.
Voilà.
Aussi.
Et notamment, on a fait quelque chose qui s'appelle le musée du mur de Berlin, qui est juste à côté de Checkpoint Charlie. Et j'avoue que sur mon premier voyage, en fait, on avait fait l'impasse parce que on s'était un peu dit, Checkpoint Charlie, bon, c'est un peu la trappe touriste à la con, là. On va pas y aller. Et alors, l'endroit de Checkpoint Charlie n'a aucun intérêt, mais le musée est assez chouette, parce que déjà faut se dire que c'est une initiative privée qui a démarré en 62, et pour rappel pour les gens qui ont oublié, le mur de Berlin a été construit en 61, donc c'est vraiment quelque chose qui s'est construit en réaction quasi immédiate avec des gens qui étaient de Berlin Ouest, qui étaient réfugiés quasi immédiatement. Alors c'était très 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 amateur au début parce que c'était vraiment monté de briques et de broc avec tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et assez vite, quoi, parce que pas tout de suite mais au bout de quelques années, en fait ils ont déménagé parce que du coup Checkpoint Charlie, comme vous en comprenez, avant il y avait le mur juste là. Et c'est vraiment la dernière adresse à Berlin-Ouest avant de passer à l'Est, quoi. Donc c'était le but d'être vraiment juste devant. Et ça s'est étoffé au fil des années. Maintenant, c'est quand même assez balèze. Ça parle du mur, mais en fait, énormément de la guerre froide, le contexte politique de la guerre froide, de la séparation de l'Allemagne jusqu'à aujourd'hui. Avec, tout le contexte géopolitique, les échanges entre les Américains, les Russes, la création de l'OTAN, un petit aparté sur le fait qu'ils te disent bien que l'OTAN, la Russie a essayé de vider l'OTAN de son sens en candidatant à l'OTAN. C'est quand même assez bon. Donc, c'est-à-dire que les États-Unis ont dû faire une réponse officielle de refus de la candidature de la Russie auprès de l'OTAN.
Expliquer ce que c'est que l'OTAN, parce que c'est peut-être un symbole qui parle à tout le monde.
Donc voilà, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui organisait la défense de l'Europe et des États d'Amérique
contre la Russie.
Contre la Russie. Donc c'est vrai que le fait que de déposer un dossier officiel de candidature dans une organisation montée contre toi, c'est quand même marrant.
Le troll, même en politique, n'a jamais cessé d'exister.
Ce qui rappelle quand même un petit peu le droit de veto de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais et puis donc ça parcourt tout ça, un petit peu la création du musée en lui-même, de se créer vraiment en contemporain du mur, et aussi le travail de la presse à l'époque, les journaux de presse qui viennent, le Der Spiegel qui a ses locaux placés juste à côté du mur, et c'est un truc qui s'est fait au moment du mur pour venir un peu le journalisme au plus près du mur, quoi.
J'aurais une question avant que tu aies continué à décrire.
Vas-y.
Le musée. En fait, j'ai visité deux grands musées qui sont consacrés à des événements historiques. C'est le mémorial de Caen pour la Seconde Guerre mondiale, et également sur la Seconde Guerre mondiale, j'étais à Hiroshima, je crois que toi aussi.
Moi, j'ai fait Nagasaki, mais on va dire qu'on a vu à peu près la même chose.
Voilà, sur les musées. Et dans les deux cas, ça a été des visites qui étaient... c'est pas facile, hein, quand on se dit on va aller à Hiroshima ou on va aller au mémorial de Caen, parce que c'est des événements très complexes. Et c'est des musées qui, moi, m'ont vraiment... j'ai quasiment pleuré. À Hiroshima, j'ai pleuré, hein, clairement, dedans.
C'est difficile.
Mémorial de Caen, pareil, j'étais vraiment pas bien. Est-ce qu'on est à ce niveau-là d'émotion, parce qu'on parle quand même d'événements historiques qui n'ont pas autant d'impact, mais qui sont quand même des événements historiques.
Déjà, que juste tout ce qui est politique et compagnie, déjà, on est un peu plus extérieur. Mm. Quand après, dans les salles suivantes, on rentre davantage dans ce que ça implique concrètement pour les gens. C'est plus difficile, on prend des coups, mais j'ai envie de dire non, ça c'est pas aussi c'est difficile de faire des parallèles, des comparaisons entre des choses différentes choses dramatiques, mais
c'est un peu comme le musée d'Hiroshima qui pour le coup manquait peut-être un peu de contexte historique, et
Hiroshima, ça t'explique pourquoi la guerre c'est de la merde. Voilà.
Ça remet pas le contexte historique, mais ça montre encore, ouais. C'est plus
c'est une ligne éditoriale, c'est-à-dire peu importe le contexte, voilà ce qui est arrivé à des êtres humains, voilà pourquoi la guerre c'est de la merde.
Mais il y a un peu des deux en fait dans ce musée là, ce qui fait qu'il y a des on peut souffler déjà, c'est pas mal.
Ouais.
Parce que pour les autres musées c'est peut-être plus étouffant.
Ouais. C'est plus long peut-être. Aussi.
Mais après ça le musée, honnêtement, on a fait la première salle avec parce qu'on était deux, on s'est rendu compte qu'on avait passé une heure, on s'est dit bon, on va arrêter de tout lire parce que sinon en fait on n'en sort pas.
C'est en français.
Alors oui, c'est un musée qui a tous ses panneaux en allemand, en anglais, en français et en russe.
Ah oui,
en russe. Donc déjà, c'est un bel... En fait, c'est tous les acteurs de la guerre froide et de l'Allemagne séparée, puisqu'il y a quand même une zone française en Allemagne. On fait un peu tout le tour de tout ça. Et il y a un autre truc vachement intéressant dans ce musée, c'est que ça parle, montre, explique tout ce qu'ont pu inventer les Est-Berlinois pour passer à l'Ouest. Donc ça va, et genre par là, les gens en fait ont fait des dons de ce qu'ils avaient pris avec eux. Donc c'est les objets qui ont servi à l'évasion qui sont exposés, avec un petit article qui présente la personne, son parcours, comment elle en est arrivée là à s'échapper, comment elle a réussi, éventuellement si elle a fait des tentatives qui ont échoué avant, les coupures de presse de l'époque qui en parlaient, etc., quelques photos. Donc ça va du mec qui a pris sa cuillère et ça va même, enfin, qui a pris un couteau et qui a creusé un tunnel sur 15 mètres sous Checkpoint Charlie. Il y en a qui ont fait des tunnels à 12 mètres sous terre avec une pauvre planche de bois qui descendait les gens. Et t'as les mecs qui ont modifié des voitures pour permettre de planquer des gens dans le moteur. Donc t'imagines la personne qui est comprimée et qui sait même pas si le motel va pas exploser sur la figure, si ça va passer, ça va pas passer. Des gens qui passent, en fait des valises évidées, qui donc t'as deux valises côte à côte et la personne en fait est tordue dedans en mode mais t'inquiète, c'est les bagages. T'as une personne qui s'est planquée dans un ampli de musique. Bon, pas un ampli.
Carlos Ghosn.
C'était un peu l'instant Carlos Ghosn du.
Pour les
du
Allemands, musée. Vous êtes l'homme qui a voyagé dans la valise.
C'est ça. mais t'as des trucs complètement dingues. Il y a un mec, il a fait parce qu'il y a des fleuves quand même à Berlin. Donc il y a des gens qui sont passés dans les canaux, dans les égouts. D'ailleurs, il y avait des. Ils ont vu ça, ils ont fini commencé à mettre des grilles avec des pointes pour que les gens se blessent en traversant. Bonne ambiance. Mais il y a un mec qui a développé en fait une sorte de mini sous-marin, et ça a été genre le premier mini sous-marin pour les plongeurs. Il est passé à l'Ouest, il l'a breveté et c'est encore utilisé aujourd'hui par la plongée amateur et professionnelle, le petit sous-marin quoi. Mais t'as des mecs, comme j'ai dit, avec un arc comme tu donnerais ton gamin, il a tiré une flèche avec un tout petit filin de nylon sur 40 mètres jusqu'à atteindre une fenêtre de Berlin-Ouest. Et en fait derrière le filet de nylon, il y avait une chaîne. Donc en fait, une fois que le mec avait récupéré le nylon à Berlin-Ouest, ils ont tiré jusqu'à ce que la chaîne soit entre les deux, et ils ont mis une tyrolienne, ils sont passés quoi.
Oh,
t'en as un pareil qui s'est laissé enfermer dans une pièce dans les chiottes la nuit avec sa femme et son fils, et une fois que tout le monde était bien parti, pareil, ils sont passés dans la moitié dans les canalisations. Enfin, c'est des trucs de cinglés.
C'est comme quoi l'humanité cherche tous les moyens. Quoi.
Et t'as deux familles, ils sont partis en montgolfière, ils ont cousu. Ils te montrent la machine, la machine est exposée. Hein. C'est une machine comme t'avais chez toutes les grands-mères. Ils ont cousu 12 000 mètres carrés de toile pour faire une montgolfière. Hein. L'inventivité est un peu sans limite.
Et persévérance surtout.
Ouais. J'imagine que tous n'ont pas réussi en fait dans tous ces.
Non. Parce
que le nombre de morts à Checkpoint Charlie, ou même
c'est là aussi, tu vois, il te raconte aussi les quelques histoires tragiques. T'as un gamin qui est tombé dans la rivière, pas de bol. Il a commencé à aller du côté Berlin-Est, donc en fait, personne n'a pu aller dans la rivière pour le sauver, puisque sinon il se tirait dessus. Donc t'as un gamin qui est juste mort devant tout le monde parce que vous pouvez pas aller le sauver. T'as un autre truc moi qui m'a particulièrement marqué, c'est que qu'en fait quand tu vois toutes ces histoires là, c'est souvent des photos d'archives, des photos noir et blanc, et t'en as une qui est montrée qui date d'avril 89. C'est deux bonhommes en fait, bon, qui pourraient pas forcément être plus malins que ça, mais sur le checkpoint, vu qu'il y avait des voitures qui circulaient, ils se sont dit, si on se met à courir, on passe entre les files de voitures, à cause de toutes les voitures, ils pourront pas nous tirer dessus. Bon, en vrai, ils leur ont tiré dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as une série de 5 ou 6 photos
qui se représente, qui te montre la scène en fait par les caméras de surveillance ou je sais pas quoi, à quelques secondes d'intervalle. Donc c'est-à-dire que tu vois la scène, enfin tu comprends ce qui s'est passé quoi.
C'est limite un storyboard. En fait.
Ouais. Et le truc c'est que je crois que c'est quasiment, je suis quasiment sûr que c'est les seules photos d'archives de ce genre de truc en couleur. C'est-à-dire que du coup, tu te dis, c'est 89, c'est en couleur, c'est des mecs qui sont, qui ont 18-20 ans, qui sont habillés, on va dire pas comme moi, mais presque. Et c'est bon, moi il se trouve que je suis en 93, donc j'étais pas encore né, mais 89, c'est ma génération, quoi. Et là, tu te dis, ben ouais. Le fait de se dire, bon, l'URSS, machin, ça fait vieux, et tout d'un coup, tu te prends 89, tu dis, ouais, ben c'était hier, quoi.
Bah moi, j'étais né, hein, j'avais 3 ans. Je me dis ça, j'avais 3 ans, quoi.
Et ça, ouais, tu prends quand même des coups, tu vois. Pareil, toi, dans la première salle, celle où on a passé pas mal de temps, il y a une histoire que j'ai découvert, je connaissais pas du tout. C'est un diplomate suédois d'origine juive qui, alors c'est pendant l'occupation nazie, il s'était un peu démarqué. Il a été envoyé comme diplomate de Suède en Hongrie au moment où l'Allemagne nazie a envahi la Hongrie pour essayer de sauver en fait un max de juifs, leur distribuer des passeports suédois, les rapatrier. Et il s'est démené sur place, il a trouvé des appartements, il a créé toutes pièces des passeports, en fait, des faux passeports parce que les passeports qu'on lui filait permettait pas toutes les garanties, donc il en a créé un autre en faisant croire que c'était des vrais. Ben, il a fait des trucs incroyables.
Il y a des histoires de fous sur les ambassadeurs.
Je crois ils disent, genre, il a fait circuler mais 20 000 juifs vers la Suède. Enfin, le nombre n'a pas trop d'importance. Une vie, tout ce qu'on peut sauver, mais bref. Et le truc, c'est que, jusqu'au bout, il est resté sur place parce qu'il disait qu'il voulait pas pouvoir partir avant d'avoir fait tout ce qu'il était humainement possible de faire. Et après les Russes sont arrivés et ils ont bien remarqué que les Russes c'était pas la top ambiance non plus. Et en gros, en fait, au bout de quelques mois, il s'est fait arrêter par les Russes, probablement sur soupçon d'espionnage de l'Ouest, quoi. Et en fait, on l'a plus jamais revu. Et le truc, c'est que sa famille, genre, n'a jamais su ce qui lui était arrivé. C'est-à-dire que le titre de l'exposition, c'est parce que le mec, c'est Raoul Wallenberg. Et le titre, c'est Raoul Wallenberg est vivant. Parce qu'en fait, on n'a aucune preuve officielle tangible de sa mort, donc on part du principe qu'il est vivant. Alors en fait, bon, aujourd'hui, en 2020, c'est sûr qu'il est mort. Enfin, à moins qu'il soit vraiment très vieux.
Ouais.
J'ai regardé un peu après coup, pour me renseigner un peu plus. En 57, il y a eu une note qui a été publiée, qui date en fait de 47, qui dit qu'il est mort dans une prison soviétique d'une crise cardiaque. Et sa famille, en gros, a dit, c'est du bullshit, qu'est-ce que c'est que ces histoires, c'est pas vrai, qui a continué, en fait. Et le truc, c'est que, vu qu'il était quand même assez connu, t'es quand même en mission officielle de l'ambassade de Suède, c'est pas le mec du coin, sa famille est montée un peu au créneau, il y a eu des réunions de soutien, des comités de soutien, pour le coup, tu vois, des chefs d'État importants.
La Suède a dû protester, quoi.
Non, mais là, parce que parfois, tu sais, on reproche un peu aux politiques importants de laisser de côté les droits de l'homme, et là pour le coup il te montre bien, il y a eu des appels du pied de la part de chefs d'État des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France,
parce que les diplomates c'est toujours
pour demander des comptes à l'URSS, aux différents, et donc tu vois des lettres adressées à Khrouchtchev, adressées à Eltsine, adressées à Poutine, et en fait pas de réponse, quoi.
La Russie, quoi.
Et c'est dingue de se dire tu peux disparaître comme ça et être rentré dans un blackout total, et en fait les archives restent bloquées, on sait pas quoi.
Il y a des cas, juste pour deux points d'histoire, tu vois. Les ambassadeurs, je me souviens qu'il y avait des ambassadeurs lorsque les nazis sont arrivés en France qui faisaient des passeports pour les familles juives pour qu'elles partent ailleurs. Je sais plus comment s'appelait cet ambassadeur,
l'ambassadeur espagnol qu'on doit pouvoir retrouver.
Ouais, mais je me souviens qu'avoir eu cette image dans des témoignages où il disait que jusqu'au train, parce qu'après on l'avait raccompagné au train pour qu'il rentre chez lui, parce que c'était une voiture officielle, dans le train jusqu'au quai de la gare, il signait tous les papiers qu'on lui faisait, c'est-à-dire il signait des faux passeports, hein, clairement, et ils ont essayé d'en sauver un maximum. Et pour les disparitions d'individus, il y a eu aussi la Corée du Nord, hein, qui a enlevé de nombreuses personnes dont on n'a jamais eu de nouvelles.
Puis j'en parlais en plus, jusqu'au dernier moment, il a même rencontré, alors il me semble que justement c'était Eichmann qui organisait sur place à l'extermination, genre dans les derniers jours de l'occupation nazie, ils étaient encore à Versailles, ils se sont rencontrés de visu. Enfin, je n'ose pas imaginer la pression que c'est de dans de
rencontrer Schmel.
Non, mais enfin voilà. Et puis, on est allé aussi dans ce qui est devenu le musée de la Stasi.
Oula, ah oui, d'accord, on est toujours dans l'hashtag bonne humeur.
Voilà, et qui est exactement dans les locaux de la Stasi. Alors, c'est le Ministerium für Staatssicherheit, qui est donc le ministère pour la sûreté de l'État. Parce que la Stasi, on l'emploie souvent comme organisation, mais c'était quand même un ministère. Le patron du service, c'était un ministre du régime est-allemand. Et déjà, voilà, rien que, on va le dire tout de suite, hein, pour ceux qui n'auraient pas forcément tout suivi, c'était la police, pas vraiment secrète, mais police d'État du régime. Voilà. Et déjà, rien que le fait de s'y rendre, on remonte des avenues qui n'ont pas vraiment bougé, qui restent soviétiques, ça fait des kilomètres, il y a des bâtiments à l'identique, hein, vraiment en mode cage à lapin soviétique, ça fait déjà bizarre quand tu viens de Berlin-Ouest. En plus, ce qui est utilisé comme musée, c'est le bâtiment principal. Il y a 3 étages, alors qu'en vrai, le bâtiment, lui, il en fait 7 ou 8, quoi. Et puis derrière, il y en a plein des bâtiments. Il y a le deuxième étage, qui était l'étage consacré, enfin, en fait, des bureaux des hauts dignitaires, dont le ministre de la Stasi, et ils ont été laissés tels quels. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, se balader dans les bureaux. Et donc on a tous les bureaux en bois, les vieux trucs à l'ancienne. Alors en vrai, je pense qu'il y a aussi pas mal l'époque qui joue. Donc on verrait des vieux bureaux des années 80, 70 du FBI, ça serait un peu pareil. Mais il y a quand même un petit peu l'austérité à la soviétique que nous on voit sur les images d'archives, sauf que là c'est du conservé tel quel. Il y a même les petites photos qui, au moment où en fait le régime est tombé, les gens sont entrés dans les bureaux pour sauvegarder les archives, pour éviter qu'elles soient brûlées, et ont pris des photos. Et donc ces photos prises sur le moment, vraiment au moment de la chute, quand il y a encore tous les bureaux, tous les dossiers sur le bureau et compagnie, elles sont mises côte à côté pour qu'on puisse voir en l'état, quoi. Et ça fait quand même bizarre, ça fait quand même quelque chose. Honnêtement, après pour en avoir discuté justement avec des amis, c'est un peu galvaudé le hashtag les heures les plus sombres de nos histoires, mais on peut pas s'empêcher quand même de faire un peu quelques parallèles quand on voit, parce que le musée aborde pas mal les contextes de la mise en place, comment c'est arrivé, par où c'est venu. Et notamment, il y a un petit écriteau moi qui m'a marqué, c'est que ça a été fondé en 1950 et après un an de propagande de presse sur la présence dans le pays de saboteurs, d'agents de l'étranger et d'espions. Donc c'est-à-dire que pendant un an ils ont martelé cette idée-là, ils recevaient notamment des collégiens, des lycéens en visite pour leur faire des exposés dessus, et après ils ont proposé une loi pour lutter contre ça et mettre en place le système qui est devenu la Stasi. C'est une loi qui a été votée du coup à l'unanimité sans contrôle législatif. Bonne ambiance.
Ouais.
Et sachant que sa devise c'est littéralement le bouclier et le glaive du parti, donc quand t'es à la fois la défense et l'arme, c'est bien en fait,
c'est pratique.
T'es un peu tout puissant, puisque étant donné que le régime est-allemand est un régime soviétique, le parti communiste du pays est en fait l'organe de pouvoir du pays, et cette organisation là est celle qui lui permet de survivre. Donc c'est l'organisation qui permet la continuité de la nation telle qu'elle est conçue. Donc à partir du moment là, avec une raison pareille, tous les coups sont permis. C'est ça qui est bien. Mais ce qui est hallucinant, c'est que le musée vous met tout de suite dans le bain, c'est la Stasi un peu, c'est qui, c'est quoi. C'est en gros des images de tout et personne, de gens dans la rue. Et c'est simplement en fait de dire, n'importe qui peut être un agent de la Stasi. Donc tu vois un mec, par exemple tu vois une photo de mariage, t'as un mec entre les deux, c'est leur témoin de mariage, c'est un agent de la Stasi qui a fait des rapports sur eux. C'est tu vois une nana d'un groupe de punk qui fait de la basse, elle a été mise sous pression, c'est devenu une agent de la Stasi sur les milieux punk anarchistes de gauche. Et c'est vraiment chez côté, en fait, à partir du moment où n'importe qui peut être agent, tu ne sais pas à qui tu peux faire confiance, quoi, parce qu'évidemment c'est un
peu... c'était l'objectif, hein.
Voilà. Et le truc, c'est que, bah, comme dans beaucoup de systèmes totalitaires, plus le temps passe, plus l'émission augmente, parce qu'il faut de plus en plus tout contrôler, ouais, pour éviter l'apparition de n'importe quel moyen, enfin, opinion.
C'est la paranoïa qui l'emporte, quoi.
Exactement. Et ils te disent, voilà, c'est un des systèmes qui a, parce que, notamment, la Stasi a recruté beaucoup d'agents au fil du temps, et au moment de la chute du système en 89, c'était genre l'agence avec qui employait le plus grand nombre d'agents. C'est-à-dire que, en gros, justement, ce qu'ils te disent, tout le monde les graphiques en disant, ouais, il y a 90 000 agents. Sauf que, bah, c'est bien, vous mettez pas de population du pays. Donc, je suis allé regarder. J'ai fait quand même cette recherche-là. C'est-à-dire que, au moment de la chute du régime, la Stasi employait 1,5% de la population. Donc, pour une agence de renseignement de police d'État.
Une personne sur 50 était un agent de la Stasi. Non, une personne sur 200 était
pour 1000.
Ouais.
Donc ça fait un sacré ratio quand même.
Il y en a un parmi nous, hein. C'est, ouais, je le dis, rassurez-vous, ouais, détendez-vous, c'est Miku.
Et puis en plus, bah, ce qui est dingue, c'est qu'il te montre vraiment après, bah, tout l'aspect embrigadement, c'est-à-dire les associations de sport au collège qui vont vers des jeunesses, des jeunesses soviétiques, qui vont après sur des jeunesses étudiantes. Et après, c'est bien dit que, bah, le fait de faire partie de ces jeunesses-là, ça te donne un plus pour trouver un emploi et fonder une famille. Donc, parce que forcément, si tu n'en fais pas partie, bah, on te regarde bizarrement. Et que pareil, bah, quand une personne faisait partie de l'organisation, on incitait sa femme à en faire partie, ses enfants à en faire partie. Et notamment, bon, après, il y a 40 000 types. Parce que c'est ça qui est dingue, c'est que c'est pas, enfin, quand on dit organisation, ça peut paraître simple, mais c'est une administration. Donc il y a vraiment des départements très précis, genre il y a le département des écoutes, le département de la poste qui ouvre les courriers, il y a le département qui rentre dans les appartements et qui fait en sorte que les mecs, ils genre par exemple dans les appartements, c'est le département 9, ça c'est le département qui fait, après il envoie le relais au département 14 et en fait il t'explique, bah, le département 9 c'est celui qui fait les écoutes, le département 14 c'est celui qui rentre dans les logements, enfin c'est super organisé, quoi. Et les mecs ont développé des techniques complètement dingues, ils te montrent genre le mec il a un arrosoir avec une caméra dedans. Ça, c'est,
J'imagine tellement le mec qui se fait défoncer sa porte. Vous êtes du département 9? Non, 10. Ah non, hein.
Ouais. Non, mais enfin, Jean-Paul, il t'explique effectivement les techniques qu'ils ont pour ouvrir les portes. Le mec, il commence par prendre les photos de tout pour après pouvoir tout remettre au même endroit. Ils font des copies de tous les papiers. Ils mettent des micros derrière les murs et compagnie. Et après, ils remettent tout à l'identique. Et à la fin, en fait, tu rentres chez toi, tu sais pas que quelqu'un est venu, quoi. En fait, à partir du moment où on te dit ce genre de truc, toi-même, tu rentres dans une paranoïa et tu te dis, mais en fait, je ne sais pas ce qui se passe autour de moi, tu vois.
Oui, oui.
Et ils te parlent aussi, bah, de toutes les techniques qu'ils avaient, genre quand ils identifiaient quelqu'un qui semblait être un peu, bah, sur lequel ils avaient des soupçons, ils organisaient son isolement social. Ils faisaient en sorte justement que, bah, par agent interposé, parce que généralement, bah, les agents, c'était un de ses amis, de faire en sorte de mettre des dissensions dans son groupe afin de l'isoler socialement, pour qu'il sente un malaise, mais sans que ça vienne d'où ça venait, quoi. Donc c'est plein de trucs comme ça de manipulation mentale. Comme je dis, voilà, il y a 40 000 types d'agents, je vais pas vous faire le détail, mais j'en parle, il y en avait jusque dans les prisons qui étaient payés pour espionner les autres prisonniers, enfin bref.
C'est pas sûr ce que tu je vais juste essayer de peut-être de conclure.
Ouais, non mais je veux juste finir là-dessus, c'est on l'a compris, hein, c'est vraiment une paranoïa mais poussée à son max, de mettre des services dans tous les trucs, dans tous les aspects de la société. Il y a quand même des trucs un peu intéressants, c'est que, bah, bizarrement, les gens qui sont dans ce genre de service, bah, ils sont très bien choyés, ils sont très bien payés, ils ont plein d'attentes, ils avaient créé plein de bâtiments, des crèches et tout, pour qu'ils vivent leur meilleure vie. Et moi, à chaque fois, ça me fait poser ce genre de questions. Alors, j'ai pas de réponse à cette question, mais quand ce genre de régime tombe, on fait des grands procès sur les hauts dignitaires, mais on sait pas ce que deviennent tous ces milliers d'agents. Et je sais pas comment on réinsère des gens. Est-ce qu'ils ont changé leur vision du monde? Est-ce qu'ils n'ont pas changé leur vision du monde? Quelle responsabilité ils portent? Et sachant que les gens qui sont aujourd'hui dans des forces de l'ordre peuvent être au service d'un ordre, mais dont ils ne savent pas forcément l'origine.
Ok, bah écoute, on va te remercier beaucoup d'ailleurs parce que c'était très complet. Tu peux juste nous rappeler les deux musées.
C'était le musée du mur de Berlin côté de Checkpoint Charlie et c'était le musée de la Stasi dans les locaux de la Stasi du côté de Berlin-Est. Voilà.
Ok, je vais faire une aparté maintenant. Qu'est-ce qu'on fait, Lua, vu que tu as l'air...
Je suis en train de m'effondrer, mais je crois que tu as...
J'y me reste juste une chronique.
Une petite chronique, vas-y.
Sûr, alors sinon...
Oui, vas-y.
Ok, bon, eh ben merci Adrian, je vais essayer de faire un point de montage facile. On va terminer très rapidement cette émission.
Bon courage pour parler rapidement de ça.
Bah, je vais essayer d'en faire, de le faire très rapidement, parce que c'est vrai que là, il commence à se faire tard, hein, pour être tout à fait honnête. Je vais donc vous parler d'un film qui s'appelle La Tortue Rouge. Qui est un chef-d'œuvre, qui est d'après le Blu-ray de l'UA qui a bien voulu me passer, le chef-d'œuvre de Michael Dudok de Witt. J'espère que je ne prononce pas mal son nom. Et il y a pas eu beaucoup de films dans ma vie qui m'ont foutu un coup de poing au cinéma, hein. Grosso modo, il y a eu quand je regardais à l'école les films de Chaplin, il y a eu certains Miyazaki, Les Tuches 2 et voilà. Et la Tortue Rouge. Vous savez que moi j'aime bien les histoires simples. Céleste, c'est l'histoire d'une fille qui monte une montagne. La Tortue Rouge, c'est l'histoire d'un mec qui est un naufragé sur une île déserte et qui va rencontrer une tortue rouge. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Ce film est un film d'animation, j'ai oublié de le préciser. C'est un film d'animation où il y a... alors, c'est belge, français, japonais et allemand. Voilà, il y a eu plein de gens. Il y a Studio Ghibli qui a mis un peu des billes dedans. Je crois que Takahata l'a regardé, a un peu participé aussi. Et grosso modo... l'histoire, voilà, c'est vraiment ce mec qui arrive suite à un naufrage d'un bateau. Il arrive dans une île, il essaie d'en partir, et à chaque fois qu'il essaie d'en partir, une tortue rouge l'emmerde, nique son radeau et le fait revenir.
On n'a pas précisé que le film est muet.
Le film est muet, voilà, c'est ça, merci. Il n'y a strictement aucun dialogue dans ce film. N'importe quel être humain peut le regarder. Et ce film est un résumé de l'humanité en une heure et demie, à peu près. C'est-à-dire que, je vais pas vous dire ce qui se passe, parce que vraiment, spoiler ce film, c'est...
Je pense que sur une heure et demie au cinéma, j'en ai passé 1h10 à pleurer.
Voilà. Moi, à la fin, j'en pouvais plus. Hein. J'étais vraiment en larmes complets. Et c'est pas des larmes, parce que c'est triste, etc. C'est vraiment... c'est l'impression d'assister à l'intégralité de ta vie en une heure et demie. C'est-à-dire que ça balaie exactement, pour moi, ce qui est la définition de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que notre statut d'être humain? Qu'est-ce que c'est le fait de naître? Qu'est-ce que c'est que le fait de mourir? Qu'est-ce que c'est d'être, d'avoir été et d'être dans le futur, en fait, de vivre? Il y a une poésie qui est complètement dingue. Ce film, et je dis pas souvent, c'est un vrai chef-d'œuvre. En vrai, c'est-à-dire que il y a des films.
Pas souvent.
Voilà, hein, je le dis vraiment pas souvent parce que il y a des films. C'est des très bons films. C'est des très 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 bons films. Totoro est un très 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 putain de bon film. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Et pourtant, Dieu sait que Totoro, voilà, ça. Mais je sais pas comment le décrire autrement que regardez-le. Vraiment, la musique est magnifique. Je pense que je vais la mettre en musique de fin. Ça s'appelle Le Revoir. Les derniers week-ends sur Twitter, il y a quelqu'un qui cherchait les moments, les passages du film qui vous ont fait pleurer, etc. Et j'ai réécouté la musique, et j'ai vidé un paquet de mouchoirs, quoi. C'est littéralement parce que ce film, en fait, vous met devant une abysse, c'est-à-dire que vous voyez tout ce que vous êtes en 1h30, et c'est ce qui fait ultra flipper. Et ce qui fait en même temps, ce film, moi, j'ai vraiment l'impression d'être compris en tant qu'être humain, et à la fois de me dire c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que j'ai été, c'est tout ce que je suis, c'est tout ce que je serai. Et voilà, c'est vraiment difficile. Alors peut-être vous n'avez pas aimé ce film, mais dans ce cas-là, ce que je viens de dire ne sert pas à grand-chose. Mais voilà, ça s'appelle La Tortue Rouge. C'est un chef-d'œuvre. Regardez-le. Oui, elle
derrière. Moi, j'aimerais juste rajouter un truc sur le côté visuel qui est très très beau. Oui. C'est assez inspiré du style des estampes de Kawase Asui, qui est un très très bon peintre d'estampes, la fin des estampes au Japon. C'est une référence. Si vous, je vous invite à aller voir ce qu'il a fait. C'est très très beau.
Voilà. Donc c'est disponible en France dans n'importe quelle édition Blu-ray. Voilà. Ça s'appelle La Tortue Rouge, mais j'ai envie de dire, même si vous le piratez, vraiment, c'est pas très grave. Bien sûr que si c'est grave, mais bon, voilà, c'est en vrai. Regardez-le. Voilà. La Tortue Rouge de Michael Dudok de Witt. Et ben voilà, on va arrêter cette émission là-dessus parce que Lua est en train de décéder pour ne rien vous cacher.
Parce que c'était à moitié, c'était pas vraiment une blague, mon intro, j'ai vraiment dormi 3h07.
Et ben voilà, on va te souhaiter bon courage. On va remercier énormément Oncle Fredo d'être venu nous voir.
Merci. Oui, merci beaucoup.
Merci, allez, on va t'applaudir, je pense que c'est pas mal.
C'est trop mettre un.
Se bus regracia tabe et tout le Merseja et Perjo.
Et il nous remercie de l'avoir invité et il dit qu'il a passé un très bon moment dans notre compagnie.
Et tout le plaisir est pour moi, je crois. Il y a un truc comme ça.
Peut-être remettre un coup sur les références du bouquin qui, pour
oui,
le coup, vaut vraiment,
Bah, ça aussi, la Tortue Rouge, ça vaut vraiment le coup.
La Tortue Rouge, ça vaut vraiment le coup, mais.
Est-ce que tu peux nous redonner les références?
Donc, Sustatalver en marge de Carles Dias, édité par les éditions à Bordeaux. C'est tout. Donc, vous trouverez ça sur abordeaux.fr ou chez un libraire.
Merci voilà. beaucoup.
Merci vraiment. Et merci à Steve, du coup, d'avoir ramené Fredo.
Je suis allé chercher, je suis allé à Bordeaux, et puis je l'ai ramené à Rennes.
Sans passeport.
Sans passeport. Et oui, d'ailleurs, en parlant de passeport, le diplomate dont on parlait, qui avait signé des tas de papiers pendant la débâcle française, c'est Aristide de Sousa Mendes. Allez lire sa page Wikipédia, sa vie est incroyable. Voilà. Merci Steve, merci Lua, tu vas aller dormir, promis, on se barre de chez toi très très rapidement, on a le temps de ranger tout ça. Merci Alderian, voilà, il y aura eu beaucoup de choses dans cette émission, beaucoup de bordel, beaucoup de sérieux, c'est un peu à l'image des Pyrénées.
C'est ce qu'on aime.
C'est ce qu'on aime, voilà. Allez, et moi, quant à moi, je m'appelle Nemo, et on se retrouve dans un mois pour la prochaine émission, où nous non plus, on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Allez, soyez forts, et surtout, n'oubliez jamais. Oui, c'est beau, la vie.